Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite présentation d'un budget, et pas que d'un budget, puisque le Restaurant des Finances, qui va, je vais laisser se présenter juste après, va nous a concocté une petite formation, alors très rapide, hein, en plus, bon, vous voyez ici, on ne peut pas faire de projection, donc voilà, c'est pour ça que les documents seront papier, donc chacun va suivre sur son papier, et voilà, on va dérouler. Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter, dès qu'il y a des questions, à les poser.
Oui, bien sûr, on est d'accord ? Oui, pas de problème. Ouais, ouais.
Voilà, bon, okay. On attaque.
Juste un point aussi, donc une fois qu'on aura terminé ça, il y avait aussi deux points par rapport aux délégations du maire.
Le tarif ?
Ah,
tarif, oui.
C'est le moment de poser des questions, parce que...
La première délibre, hein, la délibre numéro 1, c'est ça, du conseil?
Oui, c'est celle de ce qu'on a
oui, d'accord. Ah, ok, ok.
Là, ce sera le moment de poser des questions. Et puis, tout à la fin, si vous le souhaitez, on pourra également parler des indemnités des élus. C'est aussi le moment, hein, on essaye de, comment dire, de répondre à un maximum de questions volontairement, de façon à alléger le BME, et surtout le conseil municipal. Donc, on est ensemble, donc il n'y a pas de tabou.
Juste un point, si juste me permettre, donc on est en train d'enregistrer la séance, c'est pour permettre de récolter la formation et la rendre accessible pour les personnes qui déjà n'auraient pas pu être présentes, notamment les autres élus. Et puis par ailleurs, c'est pour pouvoir commencer à constituer une formation accessible en ligne. Et donc évidemment, on retiendra que les éléments génériques de formation et pas les éventuelles questions qui pourraient être posées pour la suite. Donc simplement, on vous demande votre autorisation pour pouvoir enregistrer cette formation et on vous demande voilà, si vous êtes tous d'accord ou s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord.
Combien tu donnes?
Si on dit non,
on coupera. On coupera.
Masque.
Merci beaucoup, hein, merci. Voilà.
On peut commencer du coup.
Ah bon, on y va. Allez,
bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux élus. Donc comme l'a dit M. Thirier, je suis Nicolas Dichulot, le responsable des finances de la ville. Je suis ici depuis 4 ans et demi déjà. Et je vous ai proposé un petit suivi, deux petits documents pour la formation. Un tableau général, un grand tableau sur le budget primitif 2020 de la collectivité qu'on regardera dans un deuxième temps pour regarder ensemble la situation de la collectivité et pour illustrer un petit peu la première partie qui sera un peu plus théorique. Cette première partie théorique, on prendra le support qui est ici. Donc on avait fait un petit PowerPoint, mais malheureusement les conditions techniques font qu'on ne peut pas le diffuser. Mais on aura la version papier, donc on va suivre un petit peu cette trame pour évoquer le budget municipal dans son ensemble. Et voir un petit peu comment ça se passe après en situation avant d'œuvre. Et bien sûr, comme l'a dit M. Thirier, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez surtout pas à nous interpeller, à nous interrompre en cours de route pour que tout puisse être le plus clair possible pour tout le monde. Donc voilà, je vous propose qu'on prenne ce document, qu'on prenne à la page 2, du coup, si vous le voulez bien. Simplement pour cadrer un petit peu les principes fondamentaux d'un budget municipal, alors que ce soit avant d'œuvre ou ailleurs, il y a à peu près 5 grands principes qui régissent l'élaboration d'un budget dans une commune, qu'on va regarder ensemble. Ce sont des principes qui sont intangibles, si je puis dire, qu'on est obligé de respecter partout pour pouvoir adopter un budget dans les règles de l'art, si je puis dire. Alors vous avez le premier principe qui est celui de l'annualité, c'est-à-dire que le budget doit concerner un exercice budgétaire qui part du 1er janvier au 31 décembre. Bon, jusque-là, rien de plus simple et rien de plus classique. Le principe d'universalité, c'est-à-dire que vos recettes doivent compenser et financer l'intégralité de vos dépenses, c'est-à-dire qu'on le verra plus tard. Vous avez deux sections, vous avez le fonctionnement, l'investissement, et à l'intérieur de chaque section, les recettes doivent à chaque fois financer les dépenses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inscrire des dépenses qui ne seraient pas financées dans le budget et pas finançables. Le principe ensuite d'unité, c'est-à-dire que le budget municipal regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes dans le même document pour de la transparence et pour que ça soit le plus clair possible. On vous montrera un exemplaire papier, si vous le souhaitez, du budget 2020. Si vous voulez, vous pouvez nous solliciter aux finances, on pourra vous le donner. Vous avez tout le document du budget, où il y a l'intégralité des dépenses, l'intégralité des recettes, et vous avez aussi une autre partie qui sont les annexes, c'est-à-dire ce sont des informations financières qu'on doit porter à connaissance des élus et de la population, parce que la loi l'oblige, et c'est dans un souci de transparence financière sur l'action de la municipalité. L'équilibre du budget, principe fondamental, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, vous avez une section de fonctionnement et d'investissement, et ces sections doivent être équilibrées, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes de fonctionnement doivent s'équilibrer, c'est-à-dire que vous devez tomber sur le même chiffre au centime près, et en investissement, c'est la même chose. C'est intangible, ça aussi, dans le budget municipal. Il faut absolument que le budget soit voté en équilibre. Enfin, dernier principe, vous avez le principe de sincérité. Bien évidemment, quand on fait un budget, on essaye d'estimer le budget primitif, les dépenses et les recettes. Alors, on le verra et vous le verrez, vous, en tant qu'élu, au fur et à mesure de l'année. On se rend compte qu'il y a des ajustements qui se font en cours d'année. Mais au moment où on élabore le budget, il faut que la collectivité et la municipalité soient les plus sincères possibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre, par exemple, des recettes très abondantes dont on est certain qu'on n'aura pas. On doit être le plus sincère possible et on doit estimer les dépenses et les recettes de la façon la plus précise possible. Voilà, ce sont ces cinq grands principes qui régissent l'élaboration du budget. Sans ces cinq grands principes-là, on aurait un budget qui ne serait pas validé au niveau de la préfecture et on nous demanderait, gentiment ou pas, de le refaire, je pense. Voilà, c'était un peu pour cadrer. Oui, monsieur ?
Philippe,
Comment l'investissement peut être équilibré parce que l'investissement peut générer des recettes qui ne sont pas...
Alors, la façon la plus courante, la plus simple et la plus logique pour équilibrer l'investissement, vous évaluez vos dépenses et ensuite vous inscrivez dans le budget un montant d'emprunt d'équilibre. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je vous dis absolument n'importe quoi, il vous manque 10 pour équilibrer votre budget d'investissement, vous mettez un emprunt d'équilibre de 10. Comme ça équilibre vos dépenses et vos recettes. C'est l'emprunt qui va équilibrer la section d'investissement.
À titre d'exemple, sur le BP 2020, on le verra après, l'emprunt d'équilibre, il est de 5 908 308 euros précisément. Vous l'avez dans recettes d'investissement, c'est le petit carré en
sur
bas,
le grand tableau.
À droite, sur le grand tableau. Vous voyez, recettes d'investissement, c'est la première ligne. Emprunt, dépôt et cautionnement, 5 900 000 et quelques. Oui. Donc c'est un emprunt d'équilibre, c'est pas parce que c'est inscrit là au budget qu'on fera à la fin de l'année un emprunt de 5 9 000. Oui. C'est un budget prévisionnel. Voilà. Donc on ajuste en fin d'année, au cours de l'année et en fin d'année, on ajuste et l'emprunt d'équilibre, enfin l'emprunt réel sera forcément inférieur à celui-ci.
Oui, pour aller dans ce sens-là, l'année dernière, on avait mis un montant d'emprunt d'équilibre à peu près de 6 millions ou 6 d'euros au budget primitif. Et finalement, en cours d'exercice budgétaire, au vu des réalisations qu'on a faites, on a emprunté 2 500 000 euros. Voilà, donc c'est une prévision d'emprunt qu'on met au BP. Après, en cours d'exercice, forcément, ça s'affine selon les réalisations qui sont faites ou qui ne sont pas faites pendant l'année.
Et on verra tout à l'heure, ce sera intéressant de voir l'interaction entre les deux, entre le fonctionnement et l'investissement. Ce n'est pas du tout séparé, on verra tout à l'heure, parce qu'on a besoin de dégager des marges en fonctionnement pour pouvoir bien s'autofinancer en investissement et éviter, minimiser les emprunts. On le verra plus tard, ça, je pense.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on va prendre, si vous le voulez bien, la page 3 du même document. En appui, on va sortir le grand tableau. Comme ça, on va suivre ensemble sur le tableau pour tout de suite faire un lien entre ce qui est écrit et le tableau. On va, dans un premier temps, commencer à détailler la section de fonctionnement. Donc dans le grand tableau, c'est la colonne tout à gauche. Vous avez dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, en haut, en bas. On va suivre ensemble pour vous présenter les principales dépenses réelles de fonctionnement et les principales recettes réelles de fonctionnement pour voir un petit peu ce qu'on met dans la section de fonctionnement du budget municipal. Alors, on peut commencer par les charges de personnel. Donc là, bon, je pense que ça va parler à tout le monde. Ce sont les rémunérations des agents, les cotisations, tout ce qui est lié à la rémunération des agents, comme je viens de le dire, qu'on rentre dans les charges de personnel, cotisations, assurances, toutes les choses comme ça. Donc c'est le poste de dépense le plus important pour la mairie de Vendeuvre, les Nancy. Pour vous donner un chiffre, hein, vous voyez, c'est marqué sur le côté à droite. Les dépenses de personnel représentent 62,4% des dépenses de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité.
On sera amené à en parler souvent parce que c'est un des... pas un point faible, puisque le personnel, c'est un point fort, puisque c'est ce qui fait vivre la collectivité, évidemment, mais au niveau des charges de personnel, le pourcentage là pour une ville comme Vendeuvre, en moyenne de strates, c'est inférieur.
Non, normalement, allez, on va dire, normalement, entre guillemets, on devrait plutôt être à 57, 58, 5, entre 55 et 60, ça serait mieux, dirons-nous. Ouais. Mais effectivement, après, il y a des choses qui expliquent.
Il y a un historique qui fait qu'on est à 62%.
Mais c'est le reproche récurrent de l'opposition.
Oui, à juste titre. À juste titre. Enfin, à juste titre, disons que c'est une force, le personnel. Il ne faut pas le voir comme un problème. C'est une force, mais c'est une force qui se paye. Et donc, on a intérêt à bien utiliser cette force. Et puis ensuite, à limiter quand même les dépenses à l'avenir. Donc, ça a déjà été commencé sous le précédent mandat, évidemment, avec tout ce qui est prévision des départs en retraite et autres. Il y a une maîtrise des heures sup. Enfin, bref, il y a des outils, mais... Il faut avoir conscience que c'est quand même un poste qui est très important et qui pèse lourdement. Ça, on aura l'occasion de souvent d'en reparler.
Exactement.
La difficulté, vous pourriez dire, il suffit que toutes les personnes qui partent à la retraite, on ne les remplace pas. Par exemple, le plombier. S'il n'y a plus de plombier, vous voyez toutes les difficultés qu'il va en suivre, entre guillemets. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on dit, par exemple, des gens qui travaillent à l'hydrothèque, ce qu'on a fait, mais c'est pas très satisfaisant pour les parents qui allaient jouer avec leurs enfants. Par exemple, les jardiniers, etc. Donc vous voyez que c'est pas simple. Et en plus, se créent des nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, par exemple, c'est le numérique. Hein? Donc, il faut créer des gens qui ont l'aptitude à gérer des ordinateurs, etc. Sinon, on est mort, entre guillemets. Donc, ça veut donc dire qu'en permanence, d'augmenter le nombre de personnes qui travaillent, donc il faut le prendre quelque part. Et quand vous faites le bilan à la fin d'un mandat, vous vous apercevez que c'est très 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 compliqué, malgré toutes les bonnes volontés. Alors après, il y aura toujours des candidats, mais ça c'est autre chose en fait.
Et c'est un poste qui est sensible également, parce que ça ne dépend pas que nous, l'augmentation. Le point d'indice, il est quand même...
Le point d'indice des fonctionnaires est fixé par l'État. Enfin, il est gelé, et c'est l'État qui décide
depuis un certain nombre d'années. Oui. Donc moi, en tant que fonctionnaire d'État, je ne suis pas content. Mais ici, à la mairie, je me dis, finalement, si le point est gelé, c'est bien. Quoi. Vous voyez, là où on est. Donc si, par contre, le point est dégelé, ce qui serait très bien, on est d'accord là-dessus. Mais ça veut dire que nous, au niveau des charges, comme on représente un fort pourcentage au niveau de ces dépenses de fonctionnement, ça peut nous tomber dessus, entre guillemets. Donc voilà, c'est un poste très, 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 très sensible à surveiller, effectivement.
Alors, c'est la principale raison qui nous a amené à créer ce qu'on appelle la cellule financière, hein, qui se réunit, on va dire, une fois par mois, tous les deux mois, parce que des décisions extrêmement importantes sont à prendre par rapport à la gestion du personnel. Et est-ce que c'est bien le rôle de l'adjoint en finance tout seul de prendre ces décisions? Donc, à l'époque, Philippe Poncelet, qui occupait le poste à la place de Sylvain Thérier, il a dit non. C'est des décisions très politiques. Et en conséquence, ce qui serait sain, c'est que globalement, chaque groupe politique soit représenté. C'est là l'origine de la création de la cellule financière qu'on va vous proposer de maintenir parce que ça nous a paru trop important. Et pour ne pas vous casser le moral, on a quand même avancé. Hein. Et une des solutions qu'on avait trouvées, par exemple, c'est pas très de gauche, hein, mais c'est quand même la décision qu'on avait prise, c'était que tout ce qui était donc nettoyant des locaux municipaux, soit prise en charge par une société extérieure. Ce qui nous a permis de réduire ce type de personnel. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que tout simplement, on a aussi un gros problème d'absentéisme. Et donc, en procédant de cette façon-là, on résoudrait d'une part le problème d'absentéisme et d'autre part, partiellement, donc, la charge du personnel. Parce qu'on a quand même gagné un ou deux points, c'est à le dire. Voilà. C'est un exemple que je vous donne, mais ça vous donne des pistes possibles. Ce sont pas des choses qu'on aurait faites en 2008. En 2008, jamais on n'aurait accepté ce genre de solution. Jamais.
Au contraire, puisque ça avait été créé à ce moment-là. Le service de pôle ménage a été créé à ce moment-là.
Ouais. Par exemple, Manu parlait des jardiniers tout à l'heure, les espaces verts. Eh bien, afin de pouvoir diminuer les membres de leur équipe, eh bien, ils sont en train d'installer sur tous les parcs de Vendeuvre de l'arrosage automatique. ce qui fait que ça supprime un certain nombre d'équipes qui ne faisaient que ça. C'est des choses qui ne se font pas facilement, tout seul, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut de l'argent, mais petit à petit...
Dans l'échange entre personnel, est-ce qu'il y a des formations?
Oui. Des agents?
Parce que c'est une forme d'investissement.
Des agents, oui, c'est dans les frais des charges de personnel. Ouais, oui.
S'il y a très peu de formation, peu d'investissement par rapport à des perspectives d'avenir, à des besoins qu'il faudrait financer, s'il y a plus de formation, ça pourrait être possible. C'est une forme d'investissement, je dirais.
Ah bah la formation est indispensable, je pense. Alors je ne sais pas où on en est maintenant, mais c'est vrai que la formation, tu as raison, la formation, elle est essentielle.
Il y a des formations obligatoires pour les agents, effectivement. Alors, pour poursuivre, on a la ligne d'en dessous, le chapitre en dessous, ce sont les dépenses liées à l'activité des services. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, à la mairie de Vendôme, il doit y avoir, je ne sais plus, 34 ou 35 services. Chaque service a un budget propre, avec des projets, par exemple le service scolaire qui gère la cantine, le service culture qui fait des concerts, le service informatique, le service santé, le service petite enfance. Donc, chaque service a un budget. Et dans cette colonne, enfin, dans cette case budgétaire, rentrent toutes les dépenses propres à chaque service. Alors vous avez tous les projets des services et vous avez aussi des dépenses qui sont, elles, plus récurrentes, sur lesquelles on a moins de marge de manœuvre, si je puis dire. Ce sont les dépenses liées aux contrats, aux prestations, à la maintenance qu'on peut engendrer dans nos services. Également aussi aux fluides payés par la collectivité, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz dans nos bâtiments municipaux. Donc voilà, vous avez deux parties de dépenses dans ce chapitre budgétaire. C'est les dépenses des services sur les projets, les actions qu'ils mènent. Et vous avez les dépenses des services aussi sur les contrats et sur les charges qu'ils supportent. Donc ça fait l'objet d'arbitrage, on reviendra tout à l'heure dessus, d'arbitrage annuel. Quand on prépare le budget primitif, on vous expliquera comment ça se passe. Chaque service vient dans une réunion, présente sa proposition de budgétaire et il y a un arbitrage avec l'adjoint aux finances, l'élu référent du service et la direction générale. Et c'est à ce moment-là qu'on arbitre le budget de chaque service. Ensuite, vous avez un autre chapitre qui s'appelle « Autres charges de gestion courante ». Alors comme ça, ce n'est pas très parlant. Dans ce chapitre, le poste le plus important de dépenses, ce sont les subventions versées aux associations. Comme vous pouvez le voir sur le budget primitif 2020, en 2020, ça représentait 3 900 000 euros, les subventions versées aux associations. Vous avez aussi d'autres dépenses dans ce chapitre budgétaire qui sont liées aux élus, les indemnités des élus et les frais de formation des élus, frais de mission des élus et frais de représentation du maire. Voilà, ce chapitre-là comporte donc deux éléments principaux, les frais liés aux élus et les subventions aux associations. Ensuite, je descends, vous avez les charges financières, ce sont les intérêts de la dette. Pour vous l'expliquer très brièvement, quand on emprunte de l'argent, comme on en parlait tout à l'heure, on emprunte de l'argent, la recette vient en investissement, on rembourse le capital de la dette en investissement, par contre les intérêts qu'on paye sur la dette qu'on a empruntée se payent en fonctionnement. C'est pour ça que vous avez une ligne qui est indiquée charges financières. Ensuite, vous avez d'autres lignes, je pense que ce n'est pas nécessaire de venir dessus, ce sont des éléments comptables, techniques, qui n'ont pas un intérêt fabuleux. Donc tout ça, ça vous donne une somme de dépenses réelles de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle des dépenses réelles, c'est celles que nous venons de citer, auxquelles s'ajoutent des dépenses... Pardon.
La dette, elle est contractée.
Alors, nous, à la ville de Vendôme, c'est souvent des organismes bancaires. Récemment, on a emprunté auprès de la Banque Postale, du Crédit Mutuel, ou de la Caisse des dépôts et consignations. Ça, c'est la collectivité qui, selon le besoin qu'elle a dans une année, va faire, entre guillemets, une consultation auprès d'organismes bancaires ou de partenaires institutionnels pour pouvoir se financer. Et en général, en fonction des propositions qu'on a, on choisit la solution qui nous semble la plus adaptée, la plus avantageuse en termes de conditions de financement.
Et il n'y a aucun emprunt toxique sur la ville, ça a été vérifié. À l'époque où certaines villes ont été mises en difficulté, sur la commune, il n'y a jamais eu, il y a toujours eu la plus grande prudence sur la contraction des emprunts.
Non, donc, une dette qui est très majoritairement à taux fixe.
Ouais. Est-ce que les élus
ont leur dire sur le choix des
établissements bancaires?
Ce n'est pas directement...
Ils ne nous demandent pas.
Non.
Non, mais c'est une bonne question.
On peut prendre la question d'une autre façon. Monsieur Donati l'a dit tout à l'heure, on parlera des délégations du maire. Dans les délégations du maire, le conseil municipal peut donner délégation au maire pour gérer ce genre de situation, pour la gestion de la dette. Donc c'est-à-dire que En donnant cette délégation, le maire, entre guillemets, seul avec l'adjoint en finance, peut faire ce choix-là. Après, ça peut être, c'est une organisation interne, il peut y avoir une discussion entre élus. Mais effectivement, dans les délégations accordées au maire, le maire a ce pouvoir-là de pouvoir décider, signer tout seul l'emprunt qui sera accordé à la collectivité.
À hauteur du montant qui est, on le verra tout à l'heure quand on prendra ça à la fin, à hauteur du montant qui a été voté au BP.
Oui, c'est ça. Voilà. Par exemple, si on vote 5 millions d'euros, le maire ne peut pas dire ouais. « bah, demain, moi, j'emprunte 10 millions d'euros ouais. ». Il n'a pas le droit de le faire.
Ouais, ouais. C'est une limite qui, enfin, ça devrait les collectivités, donc tout a été fixé. Elle est déjà fixée ainsi et on faisait de la reconduire à cette hauteur-là. Il y a une sincérité du budget. Donc,
Sur ce point-là, il y a quand même quelque chose. Si vous allez à la métropole, les emprunts sont beaucoup plus importants. Et donc, à la métropole, ils ont une personne dont le job, c'est uniquement de vendre de l'emprunt, d'acheter de l'emprunt,
ouais, bien sûr.
De façon à optimiser. Donc là, là, il y a risque d'avoir des emprunts toxiques. Bon, ils en ont très peu, hein, mais ils en ont eu, il faut dire les choses. Hein. Le problème, c'est qu'on regarde toujours quand c'est mauvais, mais on regarde jamais quand c'est bon. Et en jouant sur les emprunts, achats, etc., donc c'est dans un métier, hein, c'est préféré, les sources d'économie sont extrêmement importantes. Ça peut être une catastrophe, mais en règle générale, ils ne sont pas perdants, etc. Bon, à Vendeuil, ça ne se justifie pas, hein, parce que vous avez dû voir que les sommes empruntées sont très faibles. La Vendeuil est une ville très peu endettée. Il suffit de voir le chiffre qui est donné là dans 111 000 euros, hein, comparé au budget annuel, c'est préféré, c'est, je ne dis pas que c'est peanut, c'est quelque chose qui est relativement faible.
Là, c'est les intérêts.
Les intérêts.
Oui, oui.
C'est quand même quelque chose qui est très faible. Ouais,
le remboursement
c'est 918
000, hein, si vous l'avez dans la colonne investissement, on viendra après, dans les dépenses d'investissement, vous avez 918 000 euros. De remboursement du capital de la dette.
Oui, c'est le remboursement du capital. Hein, c'est
vrai. Ouais.
Alors, l'autre point que je voulais aussi vous faire remarquer, puisque l'opposition va souvent vous en parler, hein, c'est la dynamique scandaleuse des élus. En fait, hein. Bon, déjà, c'est plafonné. Hein. Et puis, deuxièmement, il faut relativiser. Hein. Ce ne sont pas les élus qui ruinent une mairie, quelle que soit la mairie d'ailleurs. En fait, hein. Après, c'est des questions d'éthique. Mais ce n'est pas des questions de quantité de sommes. Les indemnités que vous allez recevoir, que nous allons recevoir, entre guillemets, ce sont des indemnités. Et la somme globale, 337 000 euros, c'est une petite partie du budget d'une ville, en fait. Hein.
Ah bon,
donc, il faut toujours relativiser, mais ne vous inquiétez pas, on va nous faire des leçons de morale, etc. etc. en fait, hein.
Oui, c'est le jeu.
Tiens, pour ça.
Ouais, sur 43 millions, sur 34 millions,
ça représente rien.
C'est exactement les élus qui risqueraient de le reprocher. Ils ont été élus, certains.
Oui, tout à fait.
Ouais. C'est un jeu de rôle, on va dire.
Alors. Pour poursuivre, on va passer aux recettes réelles de fonctionnement, oui. Donc les recettes que perçoit la collectivité. Donc on va les distinguer tout d'abord le produit des impôts et des taxes. Alors, c'est tout ce qui est lié à la fiscalité, alors directe et indirecte. Alors la fiscalité directe, ben, c'est la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les non bâties. Vous avez ces trois taxes-là qui sont perçues chaque année par la collectivité. Donc vous voyez, ça représente plus de 9 millions, presque 10 millions d'euros par an. Vous avez ce qu'on appelle la fiscalité reversée, c'est-à-dire que appartenant à la métropole du Grand Nancy, la métropole nous reverse de l'argent chaque année, notamment parce que la métropole est un établissement public à fiscalité professionnelle unique. C'est-à-dire que toute la fiscalité économique qui est issue de la ville de Vendeuvre part directement à la métropole. Donc notamment en raison de cela, la métropole nous reverse de l'argent chaque année. Ça se distingue, il y a deux sommes, hein. Ça fait une somme globale de 5 millions, mais c'est en deux parties. Il y a la fiscalité reversée justement liée à la fiscalité professionnelle, et il y a aussi une dotation que nous redonne la métropole, qu'on appelle la dotation de solidarité métropolitaine, où la métropole nous redonne de l'argent parce qu'elle perçoit aussi des produits et parce qu'on travaille de concert et on fait des choses mutualisées. Et il y a une intégration avec la métropole du Grand Nancy. Donc, en tout et pour tout, chaque année, la métropole nous redonne 5 millions d'euros. Alors là, je fais une petite incartade dont on pourra reparler plus tard avec M. Thierrier. Attention, prudence, avec la situation actuelle, on a déjà des notes de la métropole qui nous indiquent que, compte tenu de la situation économique et des pertes liées à la fiscalité économique qu'elle va rencontrer, la métropole est en train de nous dire que l'année prochaine, ça pourrait baisser un petit peu, voire un petit peu beaucoup. Donc il y a une prudence, quand on va faire le budget 2021, il faudra qu'on soit prudent là-dessus. On risque d'avoir un peu moins de recettes de la métropole l'année prochaine. Ensuite, vous avez la fiscalité indirecte. Là, vous avez deux principales sources de financement, c'est-à-dire la fiscalité sur la publicité, la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure, sur les enseignes des magasins. Et vous avez aussi les droits de mutation. C'est-à-dire, droit de mutation, c'est tout ce qui est lié aux transactions immobilières sur la ville. Ça génère des recettes et la mairie en touche une partie. Là aussi, il faudra être attentif dès cette année, dès 2020, parce qu'avec le confinement qui a duré 2 mois, le secteur de l'immobilier, comme beaucoup d'autres, a été très à l'arrêt. Donc il est fort probable que cette année, on perçoive bien moins de droits de mutation que l'année dernière. Donc il y a aussi un point de vigilance cette année dans le budget sur ces recettes-là. Ensuite, on va passer aux dotations et participations. Ça, c'est...
Je t'arrête, hein. La fiscalité, donc la publicité. Hein.
Ouais.
On va faire pression sur vous prochainement pour dire que les magasins n'ont pas travaillé, il faut les exonérer de la publicité. Hein. Donc vous voyez quand même que c'est une somme qui n'est pas négligeable. Moi, je ne suis pas très pub, mais en fait, il faut le savoir. Et puis la deuxième chose... C'est tous les magasins qui sont exonérés. Vous ne pouvez pas choisir quels magasins seront exonérés ou pas, en fait. Hein. Donc, attention à votre bon cœur. Je ferme la parenthèse.
Alors, ensuite... Pardon.
Non, pour aller jusqu'au bout, on ne va pas exonérer Leclerc, par exemple.
Voilà. Oui, mais tu n'as pas le choix. Oui,
je sais, non, c'est pour ça.
Si on exonère les restaurants, on n'en a pas beaucoup. À Nancy, ils vont faire quelque chose sur la publicité. Mais c'est normal, parce qu'ils ont beaucoup de commerces qui ont été fermés, et notamment les restaurants qui souffrent énormément, etc. À Vendeuil, on a une situation un peu différente et on a beaucoup de supermarchés qui ont très bien fonctionné. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et maintenant, aussi, l'autre difficulté, c'est que qu'est-ce qu'on fait par rapport à la publicité? Alors, la publicité, il y a deux choses. Hein. Il y a les enseignes, le Leclerc, qui a dit que c'est le Leclerc, et puis il y a la publicité où on vend des parfums ou des vêtements ou des choses comme ça. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, il y a une réflexion de fond à avoir. Hein, mais
C'est-à-dire que là, subitement, je parle pour tout le monde, hein, subitement, vous venez de nous mettre le nez dans la merde en disant on a un bon budget, mais attention, déjà l'an prochain, ça y est, on tombe, et puis déjà, on va avoir des décisions à prendre qui vont nous faire tomber encore plus bas. Bah, et c'est le dilemme qui souvent se produit.
C'est bizarre.
C'est-à-dire que tu parles de bon cœur. Mais en même temps, comme on est des administrateurs de la ville,
voilà.
Ben, on doit se dire que si on a bon cœur, c'est une perte. C'est une somme qui n'entre pas dans nos caisses, donc des choses qu'on ne pourra pas faire. Et moi, je trouve que c'est extrêmement difficile, quand on est élu, d'avoir ce genre de décision à prendre. Alors, par exemple, je termine juste. Pour la culture, si moi je demanderais avoir 20 000 euros de plus tous les ans pour faire un ou deux spectacles de plus, et j'ose pas le faire parce que je me dis, je veux augmenter la masse. Non. Là, je me dis déjà, ben, l'an prochain, peut-être que j'aurai 20 000 de moins que cette année.
Ah ouais, c'est bien.
Ce qui était prévu parce que, comme les recettes vont diminuer, ah bah. Ben, peut-être que.
Là, on applaudit Jean-Pierre. Hein. on t'a enregistré, Jean-Pierre.
Pardon.
200 000 euros, pas 40 000.
Alors, là, justement.
Dans quelle famille ?
Ils ne sont pas au budget, justement, puisqu'on les a...
Mais si, là, on doit les dépenser...
C'est ça le problème, c'est qu'il y a une, on pourra en parler tout à l'heure, il y a tout un travail qui est fait à l'heure actuelle pour estimer le coût supplémentaire du fait de la crise, parce qu'il y a un coût des masques et autres, mais il y a aussi des opérations qui ne sont pas faites dans les services.
Oui.
Donc, il y a quand même des gains d'un côté, et des coûts de l'autre. Mais si on fait la somme des deux, on est largement, on a un coût de 200 000, ça en plus.
On est déficitaire, oui, on est déficitaire de presque 300 000 euros pour l'instant.
Mais Sylvain ne va pas vous dire, parce que lui c'est un malin, que, évidemment, on va être aidé et on va recevoir une subvention de l'ordre de 50%. Il va coûter 300 000 euros, mais il ne dira pas qu'il y a 150 000 euros qui vont arriver.
Pour être plus...
Comment ce serait quoi, une dépense exceptionnelle ?
Pour être plus complet, là, pour l'instant, les achats qu'on fait en masque, en fourniture de santé, c'est dans les dépenses de fonctionnement, ce serait au chapitre 011, si vous voulez, pour être plus précis, sur les dépenses des services, parce que c'est le service propreté de locaux qui achète, par exemple. Ces dépenses-là, pour l'instant, on les paye, comme dit M. Donati, à coût brut. L'État a quand même laissé entendre qu'en septembre, avec la loi de finances et le plan de relance qui sera annoncé, il y aurait des mesures en faveur des collectivités. On pourrait, au niveau des masques, se faire rembourser 50% pour ceux qu'on a achetés à partir du 13 avril. Et pour les autres dépenses liées au Covid, l'État a réfléchi à plusieurs solutions, c'est-à-dire qu'on puisse éventuellement passer ces dépenses en investissement, c'est moins pesant dans un budget municipal, ou alors qu'on puisse étaler la charge sur 2 ou 3 exercices budgétaires. Mais ça, on aura la réponse et le soutien de l'État, entre guillemets, on saura ça en septembre, plutôt vers fin septembre. Donc pour l'instant, on paye, on dépense de façon brute, et en septembre, on aura sûrement 1 ou 2 mesures d'allègement qui nous permettront de que ça soit moins douloureux pour la collectivité en termes de dépenses.
Et ça pèse sur le budget 2020. Alors tout à l'heure, ce qu'on disait sur les dotations et puis notamment au niveau des frais de transactions immobilières, ça risque de peser pour l'an prochain. Donc c'est pour ça que l'élaboration du budget 2021 devra être prudent parce qu'on n'aura pas de visibilité sur les dotations, sur certaines dotations. Enfin, c'est évident que l'État, à un moment donné, va falloir un petit peu qu'il trouve des économies ici ou là, et ça risque de retomber en partie sur les collectivités locales.
Mais prudent ne veut pas dire ne rien faire.
Ah non.
Par exemple, on sait que la métropole, c'est comme le monde paysan, je préfère. J'ai jamais entendu dire à la métropole que tout va bien. Jamais. Ils préviennent, et puis à la fin de l'année, vous apercevez que c'est moins pire que ce qu'ils disaient, heureusement. La deuxième chose, préférée, on est prudent. Donc, on ne va pas acheter la BMW tout de suite. On va attendre la fin de l'année pour voir si par hasard, il reste un peu d'argent, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que certains investissements, vous allez les différer, vous jouez là-dessus. Et ça se trouve qu'on pourra les faire. Donc, être prudent, ça ne veut pas dire ne pas partir au sport d'hiver. C'est pas la même chose.
Alors là, Manu, on est sur le fonctionnement. Parce qu'on va voir justement, on avait fini ou pas les. Non, pas encore les.
Les recettes, on va, on n'a pas fini tout à fait.
Alors, je vous laisse finir les recettes, okay, on reviendra après. Ouais.
Donc, pour continuer les recettes, vous avez un autre chapitre, ce sont les dotations. Donc, M. Thierry en parlait, les dotations de l'État. Chaque année, l'État nous verse des dotations et des compensations qui sont liées historiquement au processus de décentralisation qui date de 82. Alors vous avez la dotation forfaitaire, ça c'est la dotation que touche chaque collectivité, qui avait été diminuée pendant quelques années entre 2014 et 2017. Aujourd'hui qui ne diminue plus ou quasiment plus, donc ça c'est stabilisé. À Vendeuvre on touche la dotation de solidarité urbaine, parce qu'on est considéré comme une ville et comme un territoire qui n'est pas riche. Je n'aime pas dire que c'est un territoire qui est pauvre, parce que c'est un petit peu stigmatisant, mais on n'est pas une collectivité forcément favorisée au niveau de la richesse. Donc on touche une dotation de solidarité urbaine de l'État, qui, elle, pour l'instant, et pourvu que ça continue, est dynamique. Quand je vous dis est dynamique, ça veut dire que chaque année, c'est à peu près plus 300 000 euros pour la collectivité. Donc ça nous permet quand même de respirer et de nous apporter une bouffée d'oxygène chaque année, sachant que c'est une bouffée d'oxygène à dépendance, parce que pour un oui ou pour un non, je ne sais pas, si demain l'État disait on arrête de faire évoluer la dotation de solidarité urbaine et que l'évolution passait de 300 000 à zéro, vous imaginez bien les conséquences que ça aurait dans notre budget, on perdrait tout de suite 300 000 euros de recettes, et là l'équation serait quand même nettement plus compliquée à résoudre. Après, vous avez une ligne aussi dont on va parler, c'est la dotation de politique de la ville. Alors ça, c'est un petit peu particulier, c'est une recette qui est fluctuante parce qu'elle est liée à des projets d'investissement que la ville met en place. C'est-à-dire qu'on demande cette subvention sur des projets d'investissement, mais pour aider les communes dans leur section de fonctionnement, l'État nous verse la subvention en fonctionnement. Là encore, c'est pareil, on touche cette dotation de politique de la ville parce que Vendeuvre a des caractéristiques d'une ville pas favorisée. Je crois qu'il y a 4 ou 5 villes en Meurthe-et-Moselle qui la touchent. Il doit y avoir Maxéville aussi. Enfin, c'est très peu de communes qui la touchent, mais on l'aperçoit parce que l'État estime qu'on a besoin d'un coup de main aussi dans la section de fonctionnement. Donc c'est lié au projet d'investissement, c'est pour ça que je vous dis que c'est fluctuant, parce que je ne sais pas si une année on ne fait pas du tout de projet d'investissement et qu'on ne demande pas de subvention, forcément on ne touchera rien. Si l'année d'après on fait beaucoup de projets et qu'on demande beaucoup de recettes, ben, on va avoir un peu plus d'argent. Donc chaque année, cette recette n'est pas fixe, elle peut varier d'une année à l'autre, ce qui fait qu'elle vient soulager ou pas notre section de fonctionnement de façon inégale d'année en année. Ensuite, les autres recettes de fonctionnement, vous avez les produits des services. Alors ça, c'est tous les produits qui sont liés à l'activité des services. Les crèches, les cantines, la médiathèque, la ludothèque, les usagers, qu'ils soient vendopériens ou non vendopériens. L'école de musique, bien sûr, paye certains services. Donc tout ce qu'on reçoit de ces tarifications rentre dans ce chapitre budgétaire-là. Vous avez aussi les revenus des immeubles, c'est-à-dire que la ville est propriétaire d'immeubles, de patrimoine. On perçoit des loyers là-dessus qui font des recettes de fonctionnement. Vous voyez, 567 000 euros prévus en 2020. Ensuite, vous avez remboursement sur charge. Ça, c'est lié aux dépenses de personnel. On perçoit des remboursements de nos assurances pour les agents en maladie, en congé maternité, des choses comme ça. Donc, on reçoit des recettes de la part de nos assurances qui viennent un petit peu soulager. Vous avez la partie dépenses de personnel et la partie recettes. Donc, on perçoit quand même des recettes qui viennent un petit peu compenser tout ça. Ensuite, le reste, c'est pareil, ce sont des indicateurs financiers, comptables, qui n'ont pas un intérêt démesuré. Donc, vous voyez, ce qu'on vient de voir, on avait dépenses réelles de fonctionnement et recettes réelles de fonctionnement. Sur la droite du tableau, vous avez des indicateurs qui s'appellent les niveaux d'épargne. En fait, les niveaux d'épargne, ils sont liés aux produits entre, on prend les recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, et en fonction de ce que la collectivité dégage comme marge de manœuvre, elle dégage des niveaux d'épargne qu'on vous a mis à droite, et qui permettent notamment de financer une partie de l'investissement. C'est-à-dire que si on fait de l'excédent sur nos sections de fonctionnement, on a une petite cagnotte qui va nous permettre de financer une partie de notre section d'investissement, donc de diminuer la part d'emprunt qu'on pourrait solliciter.
Voilà, donc ça c'est essentiel à mon sens. Parce que c'est le delta qui est entre les dépenses et les recettes, bah, plus il est élevé, plus on va avoir des facilités dans l'investissement. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, si les recettes de fonctionnement, du fait de l'incertitude qui existe, bah, si ces recettes diminue, si nos dépenses évoluent au fil de l'eau, le delta il va se minorer. Et donc c'est là où après il y a l'effet ciseau éventuel, donc c'est là où il faut être très très vigilant, il faut garder un écart substantiel entre dépenses et recettes pour pouvoir ensuite être plus à l'aise dans l'investissement. Et en particulier dans l'investissement, on va y venir, il y a des choses qui sont, des dépenses qui sont essentielles et qu'on ne peut pas louper tous les ans. C'est tout ce qui est entretien du patrimoine. La ville possède un patrimoine, il faut l'entretenir. Donc on ne peut pas ne pas l'entretenir, sinon des années après, vous avez tout à refaire. Donc ça, c'est 1,8 million, c'est ça, on disait, non?
Au budget, c'est 1,7 million, 1,8
million. Voilà. 1,7 million, 1,8 million, donc tous les ans, on est obligé d'investir cette somme-là pour entretenir notre patrimoine. Après, il y a les acquisitions. Les acquisitions, c'est l'achat de véhicules, l'achat
matériel, des outils, des camions, des voitures, voilà. des tondeuses, c'est 400 000 euros dans le budget, effectivement.
Donc si on additionne les deux sommes-là que je viens de donner, ça fait plus de 2 millions. Et donc ça, c'est un investissement qui est toujours là tous les ans, hormis les autres projets qu'on peut avoir. Donc ça, il faut le financer. Et donc, l'idéal, c'est que la commune s'autofinance sur ses dépenses d'investissement. Et imaginons qu'une année, il y a zéro investissement autre, il y aura toujours ça qui va peser. L'idéal, c'est de pouvoir s'auto-suffire sans avoir recours à l'emprunt.
Donc, pour faire un rapide point de situation de la collectivité sur la section de fonctionnement, au jour d'aujourd'hui, en 2018-2019, sur les résultats, les comptes administratifs, on a des niveaux d'épargne qui sont stagnants, c'est-à-dire qui sont quasiment identiques d'une année à l'autre. Pourquoi ? Parce que chaque année, on a nos dépenses de fonctionnement qui augmentent un petit peu, c'est-à-dire que vous avez les charges de personnel qui augmentent, plus les charges courantes qui augmentent un petit peu, qui sont, entre guillemets, compensées principalement par la dotation de solidarité urbaine. Je vous parlais de 300 000 euros qui rentrent chaque année. C'est ça qui nous permet d'absorber l'évolution de nos dépenses courantes. Comme je vous le disais, du coup, on ne dégage plus de marge de manœuvre supplémentaire parce que les deux blocs ne bougent plus. Là où il faut être vigilant, effectivement, c'est, comme on le disait, cette année ou l'année prochaine, avec la situation actuelle, si on perd des recettes, du coup, si notre bloc de dépenses il continue à évoluer de la même façon, on va perdre forcément de la marge de manœuvre. Et on est aussi dépendant de l'État, parce que si demain, comme je le disais tout à l'heure, l'État décidait de ne plus être aussi généreux que la dotation de solidarité urbaine, on se retrouverait avec une perte de 300 000 euros. Et là, il faudrait vraiment avoir une sacrée équation au niveau des dépenses pour pouvoir maintenir l'équilibre du budget. Donc, pour l'instant, c'est stagnant, ça ne bouge plus. Mais attention, on est sous dépendance et ce sont des recettes externes qui nous permettent de nous maintenir un petit peu la tête hors de l'eau pour le moment. Donc il faut avoir ça en tête.
Donc c'est pas du tout être catastrophiste de dire ça, hein, c'est une réalité. Donc après, Jean-Pierre parlait tout à l'heure du budget. Bon, après, on reviendra également sur l'élaboration du budget, comment ça va se passer. Mais c'est une équation qu'il faut bien avoir en tête et c'est collectif. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est pour pas raisonner à un moment donné sur sa petite délégation, pour avoir une vue d'ensemble, pour avoir voilà, une cohérence. Il ne faut pas, s'arc-boutir en disant non, moi je ne veux pas que ça bouge, etc. À un moment donné. Il y a une cohérence, il y a une solidarité à avoir.
Avec quand même, si je peux me permettre,
bien sûr.
Avec quand même la difficulté que l'administration générale a quand même tendance à nous limiter en disant attention, non, l'an prochain, ceci, cela. Et, moi, je l'ai bien remarqué pendant un mandat. Il faut que nous, on ait la confiance en notre adjoint aux finances, qui lui est entre les deux. Hein, entre l'administration qui a une vue. En fait, l'administration, ils aimeraient bien qu'on ne pense rien. Hein, et donc.
Rien, je ne sais pas.
Il a un rôle. J'ai plusieurs exemples, je ne parle pas de vous, hein, monsieur.
Non, mais j'en fais partie aussi.
Patron là, qui souvent c'est compliqué parce que allez. Il a une vue tout de suite il va trouver des arguments pour que on rabaisse nos demandes et c'est là où le rôle de l'adjoint il est essentiel avec nous. Fait le lien.
Ah oui, évidemment.
Karim Brac.
Ouais, vas-y. Non, parce qu'en fait, il faut regarder les dépenses réelles et les recettes réelles. En fait, c'est là-dessus que sont basés les niveaux d'épargne. Si vous prenez les dépenses totales, il y a les mouvements d'or dessus. Alors, c'est des mouvements comptables.
Il faut regarder le chiffre. Donc, 33 368 673 en dépenses réelles.
Et en recettes réelles.
Et en recettes réelles, les 34 847.
C'est là-dessus qu'on base le calcul, en fait.
Ça, c'est la différence là qui fait l'épargne de gestion qui est en haut à droite.
Voilà. Ouais. Alors, sur l'investissement, on va parler tout d'abord des dépenses. Alors, le premier poste de dépenses, ben, on en a déjà parlé un petit peu. Vous avez l'entretien courant du patrimoine. Donc, nous, c'est à peu près de 1,7 million, 1,8 million par an. Les acquisitions, matériel, outillage, véhicules. Tout ça ensemble, ça fait à peu près de 2 millions, 2 millions 2 par an. Et vous avez aussi les projets d'investissement que la ville souhaite porter. Notamment, ces dernières années, c'était ancré dans un PMT. Donc, dans ces 7 millions-là, vous avez ces trois choses-là. Les dépenses liées au PMT pour l'année 2020, l'entretien du patrimoine et les acquisitions. Ça vous donne cette somme globale.
Alors, l'acronyme PMT, parce que tout le monde n'est pas...
Pardon.
Plan à moyen terme.
Oui, pardon.
Plan à moyen terme. C'est le projet... Plan à moyen terme. C'est le projet d'investissement
sur plusieurs années.
Plusieurs années qui permet de voir un petit peu.
Par exemple, à la ferme du Charbois, on est toujours en train de payer.
Ah non, mais ça, c'est pas un projet d'investissement. L'investissement, il est terminé sur le Charbois.
C'était de l'entretien d'un patrimoine et en même temps de l'investissement.
Par exemple, l'investissement typique qui n'est pas encore sorti de terre, c'est l'auditorium.
C'est l'auditorium.
Voilà. Oui. Le Charbois, c'est terminé, les travaux, c'est terminé. Par contre, l'entretien.
Mais on rembourse toujours.
Ah, ça, c'est l'autre chose, c'est le remboursement de la dette. Là, on est sur l'investissement. Donc, sur le Charmois, on investit pour l'entretien du patrimoine, par exemple.
Ah oui.
Mais on n'investit plus, c'est plus en construction. Par contre, l'auditorium va, quand il va débuter, ben ça c'est un investissement qui va à venir.
Quand on fait le plan moyen terme, on nous a dit, par exemple, au dernier mandat, l'auditorium, on va plutôt le financer sur 2007-2008, non, pardon.
Non.
On est en quelle année ?
C'est fini.
2020.
2020.
Normalement, ça devait être 2019-2020. Puis il y a eu des décalages avec les architectes et tout ça. Mais en fait, on vous dit, on programme ensemble, puisqu'on le vote ensemble, et on se dit, bah, cette grosse dépense d'investissement, on la prévoit cette année-là, parce que l'année d'avant, on a celle-là, et l'année d'après, on a celle-là. On essaie d'équilibrer, c'est ce qu'on appelle le plan à moyen terme, sur 3 ans ou sur 4 ans.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est hyper important. Ouais. Quelle que soit votre délégation, pensez-la sur 6 ans. Ne la pensez pas sur une année, ça n'a pas de sens. Hein? Ça vous permet d'avancer. Sinon, vous allez être déçu à la fin de votre mandat, vous vous direz, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous ne verrez pas ce que vous ferez, les choses se concrétiser et avancer. Parce que si vous réfléchissez sur 6 ans, c'est pour ça que M. le maire vous a dit la dernière fois, ne vous précipitez pas non plus. Alors l'auditorium, c'est différent, le groupe est parti, hein? Mais ne vous précipitez pas, observez, attendez quelques mois, etc., etc., pour pouvoir bien construire sur la durée. Et on le fait surtout, par exemple, sur ce qui est régalien, ça, je pense que vous l'avez déjà expliqué, avant, sur les voiries, hein, c'est la métropole, mais on sait le budget que l'on a sur 6 ans à peu près. Donc à partir de ce moment-là, on réfléchit à l'ensemble des voiries qui seront rénovées, renouvelées, puis cyclables, enfin, tout ce que vous voulez, etc. Mais sur 6 ans, parce que sur un an, c'est trop court, on ne fait rien. Donc c'est là qu'est le programme à moyen terme. Et le programme à moyen terme, quand on va le bâtir, il y en aura 5 fois plus que de possibilités financières. Mais c'est important quand même de réfléchir globalement, parce que ben, y a peut-être des choses qui vont avancer au bout de la deuxième année ou de la troisième année que vous n'aviez pas pensé qu'ils seraient prioritaires, mais qui sont dans le programme à moyen terme. Par contre, il y a des choses que vous pensez qui sont prioritaires aujourd'hui qui ne seront peut-être pas dans 3 ans.
De même, là, sur le fonctionnement, parce que là, on parlait de l'investissement, de même sur le fonctionnement, parce que tout à l'heure, on voyait bien qu'on était un petit peu contraint financièrement. Sur le fonctionnement, il y a aussi une réflexion à avoir. C'est, si on veut mettre en place de nouvelles dépenses de fonctionnement, et c'est logique, c'est normal, on peut peut-être regarder ce qui a été fait par le passé. On n'est pas obligé de reconduire tout le temps ce qui a été fait. Donc, il y a aussi une réflexion à mener, tant en fonctionnement qu'en investissement. Hein. C'est important de prendre le temps de regarder, de faire. Les services ont tous fait des bilans. Donc c'est important, je pense, de bien regarder le bilan de ce qui a été fait, ce qui est positif, ce qui est moins positif, de rectifier le tir éventuellement, de compléter, etc. Mais de façon réfléchie et en prenant le temps, effectivement.
Donc, pour poursuivre sur l'investissement, on a aussi en dépense les subventions d'investissement. Alors ça, ce sont des participations que la collectivité donne, par exemple, à un partenaire quand on fait une opération définie. Je prendrai pour exemple, parce qu'on a parlé tout à l'heure, la zone artisanale Bizet. Ça a été contracté avec le Pareca, la ville avait travaillé avec le Pareca. Et donc nous, chaque année, on donnait une participation à le Pareca pour la construction de la zone artisanale. Donc ça rentre dans cette ligne budgétaire-là. Ensuite, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, le remboursement des emprunts. Ça, c'est le remboursement du capital de la dette. Ensuite, vous avez les frais d'études. Ça, ce sont les dépenses que l'on fait quand on veut, par exemple, on parlait de l'auditorium, on va solliciter un cabinet ou faire des études pour voir la faisabilité et le coût du projet, eh bien, on paye des dépenses à ce chapitre budgétaire-là. C'est parce qu'il y a des opérations qui sont parfois complexes d'un point de vue technique et juridique à mettre en place. Donc, on va faire des études au préalable pour pouvoir voir la faisabilité et le coût final le plus précis possible. Et du coup, ça va engendrer ce qu'on appelle des frais d'études pour la collectivité. Bon, le reste, c'est financier et comptable. Au niveau des recettes, plusieurs champs de recettes principaux. Vous avez l'emprunt d'équilibre dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'était 5,9 millions pour équilibrer la section d'investissement. Les subventions d'investissement, c'est quand on a des projets. Le but, c'est d'aller solliciter l'État, le département, la région, l'Europe, pour essayer d'avoir des subventions. Donc on dit, on a un projet d'investissement, est-ce que vous pouvez nous financer à 50-60%? Quand on arrive à obtenir des subventions, ça fait des subventions d'investissement qui viennent forcément alléger notre section d'investissement et notamment réduire le besoin d'emprunt. Ensuite, vous avez le SCTVA, c'est le fonds de compensation sur la TVA, c'est-à-dire sur certaines dépenses, la collectivité paye de la TVA, que l'État nous rend. Alors nous, la collectivité, c'est 2 ans après. On peut choisir d'autres régimes de FCTVA. On peut demander l'année N plus 1, mais nous, on est encore en régime classique de N plus 2. C'est-à-dire que chaque année, on fait un état qu'on envoie à la préfecture des dépenses éligibles et l'État nous rend ce qu'on appelle un fonds de compensation de la TVA qui vient rentrer en section d'investissement. Et enfin, alors là, c'est un petit peu particulier, c'est le produit des cessions, c'est-à-dire quand on vend des biens, des immeubles, du patrimoine qui appartient à la commune. Alors, au budget, on inscrit la recette en investissement. Par contre, quand on la perçoit en cours d'année, elle rentre en fonctionnement. Alors, c'est une des spécificités du budget municipal et de la nomenclature. Mais par contre, quand on présente le budget primitif, on doit les inscrire en recette d'investissement. Donc voilà grosso modo les deux sections dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement et recettes à chaque fois attenantes. On vous a présenté un petit peu les grands postes de dépenses et de recettes. Pour conclure peut-être ma partie d'intervention, on peut finir avec le document que je vous ai donné sur le cycle budgétaire annuel. Ah, peut-être un mot avant sur l'investissement. On a parlé de la dette tout à l'heure pour vous donner des chiffres concrets. Aujourd'hui, la ville de Vendeuve a un capital de dette à éponger, si je peux dire, qui est de 8 millions d'euros à peu près. Donc ça reste modeste et faible. Là-dessus, pour le moment, ça reste correct. Pour vous donner un chiffre qui vous parle, ça représente à peu près 290 euros par habitant, ce qui reste quand même très faible. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les communes de 30 000 à 50 000 habitants, en général, l'encours de dette par habitant est plutôt à peu près à 950 000 euros. Donc nous, oui, on est bien en dessous pour l'instant. Donc pour le moment, au niveau de l'endettement de la ville, voilà, la métropole, ils sont beaucoup plus élevés que nous.
Oui, mais vous comparez juste la métropole, c'est quelqu'un qui a très bon salaire. Il peut se permettre d'acheter une voiture coûteuse. Parce que chaque année, ils ont un investissement, une possibilité de l'ordre de entre 50 et 100 millions d'euros. Nous, on a du mal d'égaler 1 million d'euros, d'accord ? Nous, on est une ville qui est comme un smicard. Quand vous êtes au smic, vous pouvez de temps en temps vous acheter deux chevaux, pas souvent, il faut les payer avec de la terre, etc. Donc, on ne peut pas comparer la métropole, ils ont très peu d'employés, ils en ont 1200, donc comme ça. Ce qui fait que, tout à l'heure, on vous a dit que la part des employés par rapport au fonctionnement, c'était 62% avant d'œuvre. À la métropole, c'était combien ? 32% comme ça ?
Ah non, c'est plus que ça quand même.
Mais 36 en fait. Ouais. Mais peu importe, c'est ridicule par rapport. Hein. Donc il faut comparer des villes. Alors vous allez me dire pourquoi la métropole est aussi riche que ça ? Parce que c'est con. Hein. Les villes comme Nancy et compagnie, ils ont tout filé à la métropole. Hein. Et je dirais aujourd'hui, c'est la métropole qui fait les investissements. Et le maire, il a toujours dit, ne regardez pas les investissements que fait Vendeuve. Regardez les investissements que nous avons de la métropole qui se sont faits sur Vendeuve et qu'on va vendre d'un point de vue municipal parce que ça bénéficie aux vendeurs papiers. Hein. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Si on veut comparer Vendeuve, il faut comparer à Vidé, il faut comparer à l'Axou, etc. Mais pas à la métropole. Ou pas dans le même camp.
Pour donner un exemple d'investissement qu'on a fait conjointement avec la métropole ces dernières années, c'est la rénovation du cœur de ville, la place du marché.
Oui.
Ça a été fait avec la métropole, du coup.
La place du marché, c'est un mauvais exemple parce que celui-là, c'est nous qui l'avons payé.
Ah ben, oui, non, mais le cœur de ville a été.
La place Velle, c'est
avec la métropole, effectivement. Ouais, ouais. Alors, pour conclure, peut-être pour vous dire comment concrètement ça se passe à Vendeuve. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque service a un budget propre. Donc chaque année, à peu près au mois de juin, on envoie ce qu'on appelle une lettre de cadrage au service. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, pour la préparation de votre budget, on vous préconise telle directive, c'est-à-dire maintien des budgets, augmentation, diminution, temps d'investissement pour le patrimoine, temps pour les acquisitions. Donc on envoie un petit peu la feuille de route, en général, fin juin. Comme ça, les services, ils ont un petit peu de temps, notamment l'été, enfin quand ils sont pas en vacances, évidemment, parce qu'on va pas les embêter en vacances, mais pour travailler là-dessus.
Donc ça viendra très vite.
Ça va venir,
ça
très,
va
vite,
venir très vite,
du coup. Ouais, ouais.
Mais c'est le maire et l'adjoint
qui signe la lettre de cadrage signée par le maire et l'adjoint. D'accord. Donc c'est une décision qui appartient à... L'administration fait des propositions, mais ce sont les élus qui décident.
On discutera, de toute façon, on discute toujours. Ouais. Parce que c'est important, c'est l'évolution. Justement, tout à l'heure, on parlait des dépenses de fonctionnement. C'est à ce moment-là où on va, comme son nom l'indique, on va cadrer les dépenses de l'année suivante au niveau du budget. Donc, ces lettres de cadrage, elles sont importante et effectivement, il faut qu'elle parte fin juin.
Ensuite, en septembre, débutent les réunions budgétaires avec tous les services. Donc, avec l'élu aux finances, service des finances et la direction, on rencontre tous les services de la collectivité pour discuter des budgets, des propositions. Et après, il y a des arbitrages qui sont faits avec les élus. Ensuite, là, je reprends mon petit graphique. Au mois de novembre, vous avez le rapport d'orientation budgétaire qui est présenté au conseil municipal. C'est-à-dire qu'on informe le conseil municipal des directives, des orientations majeures qu'on souhaite prendre pour l'élaboration du budget primitif. C'est une démarche obligatoire, le rapport d'orientation budgétaire. On doit le faire dans les 2 mois précédant le vote du budget. Si on ne le fait pas, le budget est invalide. Du coup, il serait illégal. Donc on va devant le conseil municipal pour dire, ben voilà, au budget, on envisage de faire ci, ça, de mettre tant d'argent là, pour qu'il y ait un débat avant l'adoption du budget. En décembre, on vote le budget primitif. Là, devant le conseil municipal, on vote le budget, il est arrêté. En cours d'année...
Donc c'est le document en fait, que vous avez là.
Ouais. Ça, c'est le budget primitif 2020. Ouais. En cours d'année, en fonction des besoins ou d'événements qui n'auraient pas été prévus au budget primitif, on fait des décisions modificatives. Alors, les décisions modificatives, c'est souvent pour faire des petits ajustements de crédit à l'intérieur des services ou entre les services pour pouvoir avoir un peu de souplesse, notamment dans la gestion quotidienne. Au mois de juin, on vote le compte administratif, c'est-à-dire que là, en juin, vous verrez, on va voter le compte administratif, c'est le résultat budgétaire tel qu'il a été exécuté de l'année 2019. En juin 2020, on va voter le résultat de l'année 2019. C'est toujours en N+1, si je puis dire, parce qu'il faut que l'année, évidemment, soit terminée pour pouvoir avoir les comptes certifiés, parce qu'on a aussi un partenariat avec la trésorerie qui certifie le compte de la ville. Donc au mois de juin, là, prochainement, on va voter le compte administratif, donc le résultat net budgétaire de la ville en 2019.
Et c'est presque là le plus important finalement, puisque le budget prévisionnel, ce sont des prévisions,
et le compte réalisé. Et compte administratif, ce sont les réalisations. Voilà. Vous avez bien dit, prévision, budget primitif, réalisation, compte administratif.
Ça, c'est un point très très important, parce que vous verrez quand on fait budget primitif, c'est laborieux. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Que c'est la fin de la fin, et généralement l'opposition nous prédit qu'on va être en faillite. Or, la seule chose qui compte vraiment, c'est le budget réalisé. Et le budget réalisé, c'est autre chose.
Oui, c'est la vision la plus juste.
Entre ce que vous dites que vous allez faire et ce que vous allez réellement faire, ce n'est pas tout la même chose. En règle générale, par exemple, en termes de travaux, ça se traduit par 80% de ce que vous aviez prévu. Ça veut dire qu'il y a 20% qui n'ont pas été dépensés, ou qui se sont décalés sérieusement.
Pourquoi parce que c'est plutôt 50. Hein, c'est
de toute façon, il n'arrive pas à faire tout ce que vous avez prévu de faire, etc. Donc, il faut toujours avoir en tête dans le budget primitif que ce qui compte, c'est le budget réalisé, non pas le budget primitif. Mais le budget primitif doit quand même être équilibré.
Et le plus sincère possible, malgré tout.
Et le plus sincère possible, oui. Sachant qu'il n'est jamais sincère. Parce que, non pas parce qu'on ne veut pas qu'il soit sincère, parce que ça...
Parce qu'on ne peut pas tout anticiper.
Mais parce que, entre... le prédit et le réalisé, il y a une grande marge en fait. Hein? C'est pour ça que j'ai toujours un budget, c'est quelque chose qui est dynamique.
Ah, au niveau investissement, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Quand tu parles de 80%, ça m'a beaucoup moins, je pense, ces dernières années.
Enfin, ces dernières années, on est plutôt à 45% de réalisation.
45%, c'est pas normal, ça, par contre.
On est très bas, ouais. Mais en fonctionnement, c'est plus... ça colle.
Fonctionnement, on est à 97% de réalisation.
Fonctionnement, on colle quand même au budget. Ça, c'est certain. Investissement beaucoup moins. Parce qu'il y a des aléas, enfin bon, ça prend toujours beaucoup de retard. Mais fonctionnement, oui, c'est assez fidèle.
Oui, mais toi, en fonctionnement, effectivement, on colle au budget. Mais il faut aussi faire attention que les services ne dépensent pas leur budget, parce qu'il faut le dépenser et que l'année suivante, s'ils n'ont pas tout dépensé, on risque de leur donner un budget plus faible, en fait. Hein. Donc ça, c'est aussi à suivre, en fait. Hein.
Oui. T'as raison. C'est pour ça que quand on fait l'arbitrage sur les services en septembre, on a une idée en septembre du réalisé à ce moment-là, sachant qu'il reste quand même pas beaucoup de temps pour finir le budget. Donc c'est là où aussi les arbitrages se font entre le moment où on constate ce qui a été réalisé et ce qui avait été disponible au départ au niveau du budget.
Et enfin, donc, pour finir ce cycle, au mois de septembre, on fait ce qu'on appelle un budget supplémentaire. Pour caricaturer un peu, je dirais que c'est une grosse décision modificative. C'est-à-dire qu'on reprévoit éventuellement des crédits, on ajuste des crédits de façon plus conséquente, notamment au vu du résultat qu'on a voté en juin du compte administratif. On dégage normalement, si tout va bien, un excédent budgétaire sur le résultat et on reprend cet excédent-là pour éventuellement financer de nouvelles actions si l'excédent nous le permet.
Ouais,
Sachant que cette année, l'excédent, il est...
Cette année, on a un très faible excédent qui est de 178 000 euros à peu près. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, entre certaines recettes qu'on va perdre et les dépenses liées au Covid qui pourront faire l'objet d'un traitement spécial après, mais pour l'instant, on est sûr de rien, ça signifie qu'on a peu ou pas de marge de manœuvre pour faire un budget supplémentaire cette année. On ne pourra pas se permettre de financer beaucoup de nouvelles actions, ça c'est certain.
Avez-vous des questions sur le calendrier budgétaire ou sur le BP tel que vous avez présenté?
Alors, pour l'instant, on ne perd pas d'argent, parce que pour le moment, la suppression est progressive sur plusieurs années. Normalement, la taxe d'habitation, ça serait supprimé pour tout le monde, sur les résidences principales, en 2023 pour tout le monde. Mais là, il y a des tranches qui ont fait 2017, 2018, 2019. Mais pour le moment, l'État nous verse ce qu'on appelle un dégrèvement, c'est-à-dire qu'il nous reverse la somme à l'identique qu'on aurait dû percevoir chaque année. Pour l'instant, on n'est pas perdant. Pour l'instant. On va voir comment ça se passe, notamment à la vue de la situation des finances publiques après la situation actuelle. Et dans le projet de loi de finances qui sera présenté en septembre, on aura un peu plus d'indications pour voir si l'État demande un effort aux collectivités ou pas. Pour l'instant, ça va.
C'est pertinent, c'est pour ça que les villes font un effort pour faire du foncier maintenant. Parce que la taxe foncière, elle reste.
Oui.
Donc, et construire du social, par exemple, ça, c'est pas bon pour le foncier. Construire un hôpital, c'est une horreur. Une université, n'en parlons pas. Il vaudrait mieux tout raser les universités, les hôpitaux, etc., et faire que du pavillon d'air. Ou du logement privé. Maintenant, en Vendeuve, si vous regardez bien quand même, quand on regarde les recettes de fonctionnement, hein, et qu'on voit produit des impôts 15 millions d'euros et dotation et participation 16 millions d'euros, on est quand même une ville très spéciale. Et lorsque les personnes qui payent des taxes foncières ou des taxes d'habitation disent « c'est pas juste, nous on paye des impôts pour les autres », en fait, c'est quand même pas tout à fait vrai, parce qu'effectivement, bon, ben, moi, qui ai la chance d'être propriétaire, je paye des impôts, si vous préférez, et effectivement, une partie de vendeur ne paye pas d'impôts, mais en réalité, on récupère ce qu'ils ne payent pas par les dotations de solidarité. Donc, on ne peut pas dire qu'on est perdant. Avec leur recul, pour le moment, on n'est pas perdant.
Après, à Vendeuvre, les personnes qui paient des impôts, notamment fiscalité sur habitation foncière, il y en a une grande partie qui va à la métropole, parce que la métropole fixe aussi un taux sur les taxes que payent les vendeupériens. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui paye ses impôts à Vendeuvre, il y en a quasiment les deux tiers qui partent à la métropole, en fait. Donc, c'est la métropole qui met une pression aussi fiscale qui est importante sur les habitants.
Alors j'ai une question un peu technique, mais on dit souvent qu'on n'augmente pas les impôts à Vendeuve, ce qui est vrai. On ne touche pas
au taux.
Par contre, on parle d'assiettes de base qui peuvent évoluer.
Alors,
est-ce qu'on peut avoir une explication?
Le taux fixé par la commune, il n'a pas bougé depuis 2008. Depuis que M. Ablo est élu, il n'a pas augmenté les taux.
Même avant, Mme Nicolas a augmenté la première année, elle a eu un mandat de 7 ans exceptionnel. Hein.
Ah oui, celui d'avant. Ouais.
Ils ont augmenté de 6% la première année. Ils avaient un maître argentier qui s'appelait François Muller, qui était un petit malin en fait. Hein. Il a augmenté de 6% la première année. Alors il dit d'abord, scandaleux, 6%, vous rendez compte, on va faire l'opposition, tatatitata. Et après, ils ont tout bloqué jusqu'à la fin du mandat en fait. Hein. Donc en réalité, ça fait 12 plus 6 ans, ça fait 18 ans que les impôts n'ont pas augmenté sur la ville de Vendeuve. Il n'y en a pas beaucoup.
Donc le taux communal.
Le taux communal. Effectivement, voilà. Tous les ans, il y a ce qu'on appelle, c'est fixé au niveau de l'État, donc la collectivité n'a aucun pouvoir là-dessus. Ce qu'on appelle une revalorisation de la base, c'est-à-dire que l'État revalorise les bases à partir desquelles sont calculés l'impôt. Donc même si la commune n'augmente pas son taux, quand la base est revalorisée, en général c'est suivant l'inflation, bah, votre impôt que vous payez, il augmente forcément un petit peu mécaniquement. Quand bien même la collectivité n'augmente pas son taux.
Ça ne donne pas plus de facilité à la ville parce que pendant ce temps-là, l'énergie, le fuel, enfin, les salaires, tout a augmenté en proportion, si vous préférez. Mais... et des villes sur l'agglomération qui ont souvent 18 ans de blocage, il y en a d'autres. Hein. Saussure, par exemple, c'était son cas, Saussure de l'autre côté de l'agglomération, il y en a très peu. Hein. Dans le Nancy, par exemple, il y a un modèle de ce genre.
Après, la question ne se posera plus, comme la taxe d'habitation va disparaître.
Ouais, on aura toujours foncier.
Oui, voilà, parce qu'on n'aura plus de marge de manœuvre là-dessus. On ne pourra pas dire on va augmenter les impôts, le taux communal, puisqu'on n'aura plus la main dessus. Donc, c'est pour ça que les recettes sont moins dynamiques, en fait. C'est pour ça que les collectivités se sont plaintes à un moment donné. Dire on est compensé à l'euro près, mais après, on est coincé, on n'a plus de levier sur cette manne-là. Bon, c'est comme ça.
C'est vraiment une décision nationale, parce que si vous regardez bien, les villes globalement se sont enrichies ces 30 dernières années. Si vous ouvrez les yeux, de regarder le matériel urbain, si vous préférez, c'est pas la France qu'on connaissait il y a 30 ou 40 ans, où c'était que des nids de poules, etc. Et donc l'État, par contre, on a un État qui s'appauvrit. Et donc, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, si vous préférez, c'est vraiment une volonté jacobine, hein, on dirait,
oui,
c'est-à-dire de reprendre le pouvoir. Que concrètement, les métropoles et les villes n'auront plus aucune souplesse. Hein, vous aurez un budget, vous serez gestionnaire de votre budget pour les choix politiques, mais il n'y aura plus de souplesse de dire bon, voilà, on veut faire un bel équipement, on va augmenter, je veux dire, n'importe quoi. 10%. Par exemple, la rénovation urbaine, comment on l'a fait? Ben, tout simplement, au niveau de la métropole, chaque année, on avait automatiquement augmenté l'impôt de 1%. Ça payait la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on prenait sur l'ensemble des citoyens, sur l'impôt, pour rénover les quartiers sociaux. Ça, on ne pourra plus faire. C'est-à-dire que ça se fera autrement. Oui.
Et la TICFE, on en parle
dessus. La TCFE, vous voulez dire ? Non, la commune, elle n'a pas instauré. On avait le choix, il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, d'instaurer un coefficient entre 0 et 8, et nous, on est à 0, donc on ne l'a pas instauré.
On a eu le débat en 2011, 2012.
Oui,
2011.
L'ancien maire, il disait il faut avoir la franchise des impôts.
Ouais.
Si on augmente les impôts, on le montre. Si on les bloque, on le montre, etc. Tous ces impôts indirects, pour lui, c'était honteux, hein, parce qu'on cachait, on pouvait dire, regardez, on est bon, on n'augmente jamais les impôts, puis en fait, on les augmentait sur la taxe électrique.
Puis c'était sur la consommation, c'était sur la consommation, donc etc. C'était aussi.
Donc il a pesé sur les ménages. Transparence, et je pense qu'il avait raison. Hein. Si vous augmentez les impôts, il n'y a pas de honte à augmenter les impôts, mais il faut le dire. Et puis après, vous n'êtes pas réélu, ben vous êtes pas réélu, c'est tout, vous êtes un choix. Et
puis ça ne touche pas les populations de la même façon, alors que la taxe sur l'électricité touchait tout le monde indépendamment du revenu.
Ouais, enfin, on va dire que la taxe d'habitation, elle serait juste aussi. Hein.
C'est... Et les exonérations, pardon. Ouais. Oui.
J'avais encore une question pour l'avenir. Les finances publiques, c'est quelque chose qui est très très vieux et ça évolue très lentement. Mais avec l'évolution de la démocratie participative, on voit des projets qui vont naître, le budget participatif, on voit des systèmes de financement participatif. Est-ce que ce genre de propositions nouvelles vont impacter la manière de construire un budget municipal?
Après, j'ai donné mon opinion. J'ai envie de dire, dans l'immédiat, je pense pas trop, parce que pour l'instant, ce qu'on voit dans les budgets participatifs, c'est souvent une enveloppe en investissement qui est donnée aux gens, peut-être 5% en investissement. Donc nous, par exemple, dans nos 7 100 000, on pourrait très bien dire, je sais pas, on réserve 100, 150 000 euros pour un budget participatif que les citoyens, dont les citoyens peuvent s'emparer pour un projet. Pour l'instant, voilà, ça s'intègre au budget de la commune. Après, est-ce que ça modifie la conception? Pour l'instant, de façon très marginale, je pense. C'est pas encore tout à fait dans les...
On va le faire, on s'est engagé. Mais on a le maire de Metz, hein, M. Gros, hein, est venu, il nous a raconté son budget participatif. Bon, franchement, c'est du populisme. Hein. Ce qu'il faisait habituellement, hein, installer des bancs, mettre des jeux, etc., etc., et ben, il a arrêté de le faire, et puis il a dit aux habitants, ben voilà, on peut mettre des bancs, on peut mettre des jeux, etc., vous votez, puis vous choisissez, bien, riche en Gaulle, par le riche en Gaulle, etc., etc., vous votez. Ni plus ni moins, c'est ce qu'il a fait. Hein. Donc, c'est bien d'introduire une notion, disons, de participation, c'est plutôt sympa, mais ça reste sur une petite somme, et puis, je dirais, de toute façon, il l'aurait fait.
Il a juste changé de concept.
Oui, il a juste changé de concept. Si vous allez, mon modèle, moi, actuellement, c'est l'axe ce que fait Laurence Misère, en fait. Hein. Les gens, d'abord, proposent un certain nombre de choses. Ils ont fait l'évaluation, combien ça coûterait d'en faire, on va dire, 20%. Hein. Et puis après, ils ont demandé aux gens de voter, voilà, ils ont dit, lycée 3, j'ai regardé, etc. Et puis ceux qui sont plus ressortis, ils l'ont choisi. Donc c'est sympathique et je pense qu'il va.
Ce qui était bien,
c'est. On va y aller, hein, mais honnêtement, c'est symbolique. Hein.
Ce qui est bien, c'est les Fontainebleau.
C'est là
les...
Oui, les Fontainebleau. Ah oui, alors ça, c'est scandaleux. Hein Fontainebleau. À Metz, ils ont dit jusqu'à demander aux habitants de voter pour les Fontainebleau. C'est n'importe quoi, ça.
Mais c'était grandiose.
C'était grandiose. J'avais honte pour le maire de Metz, hein, ça raconté ça.
Hein.
Mais il le disait, elles sont vergognes. Hein. Il disait quoi, on a fait de l'électoralisme en fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du budget participatif. Mais ça c'est n'importe quoi. En fait. Donc quand on va sur un budget participatif, là il va falloir vraiment qu'on le travaille. Et pour moi, le travailler, c'est aller voir ailleurs comment ils font. Il ne faut pas jouer avec les gens, je trouve. Je trouve que ce n'est pas bien.
J'avais encore une question, c'est le lien avec la trésorerie publique et les délais de facturation, de paiement. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est cette difficulté de délai.
Alors, j'allais dire, ça va mieux, effectivement, parce que la collectivité elle est toujours en partenariat avec la trésorerie publique. On a une comptable publique qui est Madame Bernice. Parce que dans une collectivité, évidemment, on ne fait pas comme on veut. Le maire ordonne la dépense et c'est la trésorerie qui exécute la dépense. C'est-à-dire que nous, on est toujours en lien avec eux. Et sans la trésorerie, on ne peut pas travailler. Donc quand on a des factures à payer, je pense que c'est le sens de ta question, quand on a des factures à payer dans une collectivité, on a un délai maximum de paiement de 30 jours. Généralement, on se dit que la ville, elle a 20 jours pour faire sa part de travail, et la trésorerie, elle a 10 jours pour faire sa part à elle. On a eu des années difficiles entre 2016 et 2019. On était arrivé à 37 jours de délai de paiement, de par notre faute, parce que la trésorerie paye en 3 ou 4 jours, elle. On a résorbé ça, c'est descendu, et on a eu les chiffres pour 2019, où on est passé à 28 jours. Donc on est redescendu sous le seuil légal, ce qui est une bonne chose, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que normalement, quand on paye hors délai, on devrait payer des pénalités et des intérêts moratoires automatiquement. Ce qu'on n'a jamais fait, d'ailleurs. Mais là, on s'est remis en conformité, et c'est quand même mieux vis-à-vis aussi d'un point de vue légal, financier, puis vis-à-vis aussi de nos fournisseurs, parce que parfois, il y a des petites boîtes, des petits artisans qui attendent et tout, et à un moment, on ne peut pas les mettre en difficulté au niveau de leur trésorerie. Donc ça s'est réglé, et tant mieux. Alors, on l'a pas que partiellement pour l'instant dans les opérations budgétaires, là c'est de l'investissement. On a créé depuis 2-3 ans, notamment pour le PMT, des opérations budgétaires, c'est-à-dire dans le budget, on a mis, par exemple, chez Auditorium, on a créé une opération Auditorium, et dans cette page du budget, vous avez toutes les dépenses et toutes les recettes qui sont liées à ce projet-là. Donc c'est une approche plus par projet. Après, là c'est pour l'investissement. Sur le fonctionnement, on ne le fait pas ou on ne le fait pas encore. Ça sous-entend une approche plus analytique du budget, effectivement, par projet, dont on a déjà parlé, je sais, plusieurs fois avec M. Poncelet, on avait en tête de faire ça. Effectivement, ça pourrait être intéressant, c'est une approche différente qui sort un peu de la nomenclature comptable, qui n'est pas toujours exaltante, il faut le dire. Ce n'est pas encore en place avant d'œuvre au niveau du fonctionnement, mais ça pourra l'être, effectivement. On pouvait réfléchir.
Il y avait aussi eu, je me souviens, un rapport de la Cour des comptes.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications sur...
Alors, on a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes du Grand Est en 2018. Alors, la Chambre régionale des comptes, ils viennent nous contrôler la gestion de la collectivité. Tous les 6-7 ans, ils viennent toquer à la porte, à peu près. Donc là, on est tranquille, peut-être sur ce mandat-là. Peut-être à la fin, on verra. Ils avaient fait un contrôle de gestion sur plusieurs domaines. Il y avait les finances, les ressources humaines, la restauration scolaire, les marchés, je crois. Alors, sur la partie financière, ils avaient établi que la situation financière était encore satisfaisante. Il y a 2 ans, hein, je parle de ça. Mais ils avaient alerté sur ce qu'on alerte, nous aussi, sur le fait qu'on avait une dépendance assez forte à la dotation de solidarité urbaine. Et ils nous avaient aussi mis en garde, notamment sur les dépenses de personnel qui représentent un poids considérable dans le budget de la ville. Après, il nous a fait des remarques aussi techniques sur les délais de paiement qu'on a résorbés depuis et sur certains modes de gestion comptable que le service a depuis repris en main. Effectivement, sur la situation globale de la collectivité, ils avaient mis en avant le poids des dépenses de personnel et la dépendance qu'on avait par rapport aux recettes extérieures dont on était un petit peu dépendant et sur lesquelles on n'a pas vraiment la main, et que si demain la situation venait à être différente, on pourrait se retrouver en difficulté. Donc voilà, bon, je grossis énormément ce qu'ils ont dit, mais effectivement c'est ce qui en était ressorti.
Et il y a des préconisations d'ailleurs.
Alors ils font des recommandations à la fin, recommandations. Le rapport a été présenté au conseil municipal en septembre de l'année dernière, et normalement un an après, donc là bientôt dans quelques mois, on doit repasser au conseil municipal pour montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en œuvre depuis. Donc on aura l'obligation, entre guillemets, de rendre un petit peu des comptes, parce que la Cour fait des recommandations qui ne nous obligent pas vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de reprendre trait pour trait ce qu'ils nous ont demandé de faire. Par contre, maintenant, au bout d'un an, on doit quand même rendre compte de ce qu'on a fait. Donc après, c'est un peu un aspect plus politique, et à dire au conseil municipal, ben voilà, on a eu telle remarque, qu'est-ce qu'on a fait en un an pour y remédier. Donc il faudra qu'on repasse devant le conseil au mois de septembre pour un peu faire le point sur ce qui a été fait en un an, effectivement.
Sachant que la Cour des comptes, elle apparaît comme un grand censeur, entre guillemets, et si vous suivez les remarques de la Cour des comptes point par point, vous vous apercevez très rapidement qu'il y a des contradictions. C'est-à-dire vous allez dans un sens, et puis après, ben, forcément l'année suivante, ils vont vous claquer sur l'autre. Parce que vous avez été trop dans un sens, etc.
Oui, bien sûr.
Il y a un équilibre à trouver, et il faut dire que la Cour des comptes, c'est des experts. C'est une chance pour nous d'avoir été examinés par la Cour des comptes. On n'a pas volé, on n'a pas tué, etc. On doit pouvoir s'améliorer, et il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire en regardant ce qui est sensible, ce qui n'est pas sensible, et en gardant des logiques, hein, parce qu'il y a des logiques à conserver. En fait,
hein. Oui, après, pour reprendre un peu ce que disait M. Becker tout à l'heure, pour faire un peu de... paraphrase, la Cour des comptes, évidemment, c'est un regard extérieur d'expertise qui est très intéressant. Après, c'est une vision très administrative, très comptable. C'est-à-dire qu'ils prennent des chiffres, ils disent, bah, il n'y a qu'à faire comme ci, je caricature, il n'y a qu'à faire comme ça. Après, il y a la dimension politique, il y a la dimension de la ville, on peut pas... Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Eux, ils nous donnent un point de vue très administratif.
Et humain. C'est un peu comme l'ARS et les hôpitaux. Hein.
C'est des chiffres dans des cases et puis c'est des équations. Après, il y a l'aspect humain et politique. Voilà.
S'il y a d'autres questions.
Oui, après, effectivement, il existe des brevets que peut acquérir une ville. Alors, un brevet, c'est toujours payant voilà, au départ. Après, je pourrais vous donner un exemple qui me vient en tête, ce qu'on appelle les CEE, les certificats d'économie d'énergie. La ville peut, entre guillemets, les générer et les revendre ensuite pour... Et des choses comme ça. Après, c'est vrai que ce n'est pas comme une entreprise où on ne produit pas du... Comment dire ? Il n'y a pas de production dans une collectivité territoriale. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour nous de faire de la revente, hormis proposer des services à la population qui sont payants. On n'a pas d'aspect marchand dans une collectivité. Après, des brevets sont possibles, comme des certificats d'économie d'énergie, mais ça reste quand même très limité et très encadré. Alors pour la population, encore que, on n'a pas le droit de faire concurrence au domaine privé, en fait. Ça serait quand même très encadré. Donc,
ça ressemble un petit peu à ce
qui se fait au niveau des associations, finalement. Une association, juridiquement, c'est du privé, donc une collectivité, c'est public.
Et nous, en termes de
oui, voilà, c'est ça. Ouais. Nous, c'est très très limité, hein, sincèrement.
Voilà,
oui,
Puis on a une population qui est pauvre. Hein. Donc par exemple, on fabrique beaucoup de salles que l'on peut louer. Mais tu regardes C'est pas, franchement, c'est pas un bon investissement. Mais si on ne fait pas ces bâtiments dans des populations, on ne pourra jamais de ça pour un mariage, pour un couscous, pour je sais pas quoi, en fait, c'est un sens. Donc, c'est un service que l'on procure, mais ça ne se pas pour gagner d'argent.
Oui, oui, c'est un petit peu. De toute façon, c'est pas forcément un outil de gagner d'argent, c'est genre justement pour faire des investissements
proposé.
Qui soient mieux, on va dire, moins dépendants, peut-être de choses qui nous faudraient arriver à s'en dépendanciser. Et justement, avec le service numérique, en fait, moi je me demandais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être proposées, même par exemple à d'autres villes, qui pourraient par exemple être des formations pour d'autres villes, ou des, s'il y a par exemple un logiciel qui est créé, il pourrait être vendu, même si, ou alors le service de l'installation ou de l'accompagnement pourrait être mis en place. Est-ce que ça, c'est des choses?
Alors, sur l'exemple en plus précis du numérique à Vendeuvre, on est quand même très restreint parce qu'on fait partie de la DSIT, c'est le service informatique qui est relié à la métropole du Grand Nancy. Donc par exemple, je vous parle de nous aux finances, on a un logiciel Coriolis, on n'a pas le choix d'utiliser ce logiciel-là en fait. On dépend des systèmes informatiques mutualisés, donc au niveau numérique et informatique, on a très peu de marge de manœuvre, on n'a même pas trop le choix de certains logiciels. Donc,
ah oui. Un modèle sans être payant aussi, hein, mais des fois quand même c'est bien d'avoir l'accompagnement, et ça le temps d'accompagnement, c'est difficile de ne pas le faire payer parce que sinon ça fait du temps faire un peu. Donc c'est ça que je me demandais, si jamais il y avait une possibilité ou quoi.
Ouais, ça reste délicat sur de la formation. Les collectivités en général elles cotisent au Centre National de la Fonction Publique Territoriale, c'est l'FPT qui dispense des formations, donc comme elles cotisent elles vont aller se retourner vers la CNFPT pour faire des formations entre collectivités qui seraient facturées par une collectivité. J'ai jamais vu ça pour l'instant et je pense que ça serait compliqué à mettre en place. Ouais. Ouais, ça serait quoi, on rentrerait dans un secteur un peu concurrentiel avec des autres organismes. Je pense qu'on nous taperait sur les doigts.
En fait, les seules choses qu'on peut faire pratiquement, c'est couper les arbres dans la forêt, mettre des panneaux solaires sur les bâtiments publics et vendre l'électricité à des choses comme ça.
Ouais, on est limité, hein,
mais
c'est
limité, hein, la forêt n'est pas grande, et puis...
on
n'est
pas.
Mais il y a des beaux arbres.
Ben,
il y a
des
dépenses.
Il faut couper dans vos dépenses.
Voilà.
Ou alors, je vais vous donner un exemple.
En fait. Merci, Laurie.
Si demain, on ne pouvait pas équilibrer notre budget pour une raison ou pour une autre, le préfet nous saisit, il envoie le budget à la Chambre régionale des comptes et il nous propose des mesures pour équilibrer le budget. Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? Ils vont vous dire, écoutez, c'est simple, pour dégager des marges de financement, la solution la plus rapide, c'est de vous augmenter vos impôts tout de suite. Comme ça, vous... Hop.
Tant qu'on peut.
Oui, après. Non, mais... je vous le dis, c'est honnête. Hein. Il ne s'embêterait pas en plus. Il nous dirait, il faut faire du levier fiscal, et il faut fonctionner, les gens. Après, il nous dirait, il faut couper dans vos dépenses, il faut... Tous les services publics qui ne sont pas obligatoires, ceux qui sont facultatifs pour une ville, on nous dirait, vous n'avez qu'à les supprimer.
Oui, ça va taiser, vous.
Ben, pardon. pas les concerts.
On peut.
Il y a des choses à creuser, je veux dire, en termes justement plutôt d'innovation, parce que là, à mon avis, il y a des choses qui sont un peu organiques. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses à creuser sur ces idées de prestations, de formation, de choses comme ça? Vous pensez que c'est mort d'avance?
Moi, sur l'aspect formation dispensée par la commune, je suis assez sceptique. Hein. Je pense pas qu'on puisse mettre ça en place et je vois pas comment on pourrait se faire rémunérer sur des actions comme ça. Je pense que la trésorerie nous bloquerait, hein, sincèrement.
Si jamais tu pouvais, il faut toujours se rappeler qu'un agent, ça coûte entre 30 et 70 000 euros, ça dépend du salaire en fait. Hein. Et quand tu vends quelque chose, tu dois déjà avoir payé ton agent en fait. Hein. Donc c'est pas si simple que ça.
Et juste pour ajouter, peut-être que sur les finances, en fait, on essaye de chiffrer des choses, mais il y a beaucoup de choses dans une ville qui ne sont pas chiffrées, mais qui existent, des actions de bénévoles, d'associations qui prêtent du matériel. Et en fait, c'est aussi cet aspect-là dans les finances qu'on ne peut pas voir et que nous, humainement, on doit pouvoir regarder, valoriser. Il y a plein de choses comme ça qui existent et je pense qu'on peut travailler sur cet axe-là pour mettre en valeur des actions qui ne sont pas chiffrables par nature.
Effectivement,
là, c'est vrai qu'on... Les masques de Nancy, par exemple.
Typiquement, ce qu'on a fait en donnant les masques aux habitants, on ne peut pas le chiffrer. Parce que
c'est une action, ça se chiffre, ça.
Ça se chiffre. 4
à 10 000 euros, je peux
le dire. Mais ce n'est pas chiffré dans le budget.
Le fait qu'on cherche toujours à financer une fois,
ouais,
une fois
de bloquer,
et aussi des
bonnes
volontés de solidarité.
Oui, dans le même ordre d'idée que ce que disait Louis, est-ce que la ville a le droit d'investir dans une production qu'elle vendrait, qui viendrait à son bénéfice?
Dans une production, c'est-à-dire?
Chalet, par exemple, qui est sur le rond-point là, du côté de la Jeanne d'Arc, est-ce qu'on peut le revendre?
Oui, on pourrait. C'est une cession. Enfin, ou alors il faudrait l'intégrer dans l'inventaire de la ville. Ouais, alors c'est très encadré. Là, il faudrait passer par la trésorerie parce que ça dépend de l'activité qu'on met en place. Ça dépend du chiffre d'affaires qu'on compte faire, si c'est soumis à la TVA ou pas. Enfin, c'est pas un faisable, mais... Ça m'étonnerait qu'on puisse aller jusque-là quand même, je pense. Qu'on puisse, je sais pas, demain, on fait un livre sur la ville de Vendeuve, on veut le commercialiser, on peut le faire. Par contre, après, dans les démarches que vous évoquiez, je suis plus sceptique. Hein.
Non, je crois que la plus belle action de production qu'on peut faire, c'est offrir aux associations les moyens de fonctionner.
Oui.
Parce que les associations, c'est du bénévolat. Et si tout le bénévolat fait sur Vendeuve par les associations devait être financé de façon privée, il n'y aurait pas le dixième des choses qui se passent sur Vendeuve qui pourrait se passer. Là, je crois qu'on est vraiment dans la
sur. Ce que dit Philippe, ça voudrait dire que la ville deviendrait une entreprise et qu'elle deviendrait patron et qu'il faudrait qu'il y ait de la rentabilité sur ce produit-là, sur bien.
Sur un secteur très
spécial, évidemment. Ça veut dire qu'on embaucherait 10 mecs pour qu'ils fabriquent des visières et on vend les visières et on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, même si ça rapporte de l'argent.
Marie-Hélène.
J'ai déjà entendu dire qu'il y avait par exemple des restaurants ou des commerces qui étaient en régie. Ça veut dire quoi? C'est bien la mairie qui est derrière?
Des restaurants ou des commerces extérieurs à la mairie?
Le marché, non?
La brasserie sur le marché.
La brasserie du marché.
En régie.
Elle n'est pas en régie.
Non.
La brasserie du marché?
On peut quand même bien dire qu'il y a une mairie qui est derrière.
Non, parce que les murs, ils appartiennent à la mairie.
La régie.
Les murs qui appartiennent à la mairie.
C'est tout.
C'est pas comme une gérance?
Non.
Non.
On loue ou on a laissé les murs pour qu'ils pratiquent leur activité.
D'accord. Mais la mairie, elle ne refuse pas des bénéfices?
Ah non.
Peut-être une location, je ne sais pas.
Bah, si c'est une association ou un tiers qui utilise les locaux, ils nous reversent sûrement une redevance pour l'occupation. Après, sur l'activité même de la brasserie, on ne touche pas. Non, on ne touche rien du tout.
Non. Qui travaille bien, on ne sait pas. Ça ne change rien.
Pendant qu'il y a des régies pour vendre.
Ouais, c'est ça.
Généralement, c'est des services qu'on met en régie dans la métropole.
Il y a des
cultures, il y a des régies.
Ouais, bon, mais on peut mettre aussi des modes de gestion de services publics en régie, les délégations de services publics.
Oui.
Alors, autre question, est-ce que la mairie aurait le droit d'utiliser dans ses dépenses de la monnaie locale?
Dans ses dépenses, dans le budget?
Ben, c'est-à-dire de
acheter en monnaie,
de payer les choses qu'elle a à payer, par exemple, je ne sais pas, on peut acheter des masques. N'importe quoi, enfin, je veux dire, quelque chose qu'elle doit payer, ça peut être même des salaires,
ouais.
Ça peut être tout ce qu'on veut à payer, de payer en monnaie locale.
Non. Non, parce que je sais pas, je vous dis n'importe quoi, on va acheter une tondeuse à Cora ou je sais pas où, on leur dit ben, on va vous payer en monnaie vendopérienne, ils vont nous dire pour eux ça représente rien en fait. Quoi.
Ça, c'est le vendeur qui te mais à l'époque, c'est
acheter du florin en fait.
Si il accepte cette monnaie ou pas, mais supposez qu'il y a un vendeur qui prenne cette monnaie là, vous pouvez acheter chez lui. Il faut évidemment que le service accepte.
Le problème, c'est que nous.
Est-ce qu'on peut utiliser d'autres devises que l'euro?
Non, parce que nous, en plus, on n'a pas d'argent numéraire, on marche par mandat administratif et des choses comme ça. Donc, c'est l'euro. Ouais.
Est-ce qu'on ne peut pas donner aux enfants, par exemple, au lieu de leur donner des bons de 100 euros à transmettre aux associations, leur donner des bons de 100 florins à transmettre aux associations? Ça, on pourrait faire ça.
Aux associations?
Des enfants, ils reçoivent chaque année ce qu'on appelle la carte junior, en fait. Hein. La carte junior, après, on peut la mettre en euros, on peut la mettre en florins.
Oui, après, ça veut dire que vous avez dans Vendeuve, des commerces ou des prestataires qui font partie du dispositif et qui peuvent... Oui, on pourrait, dans ce dispositif-là...
Oui,
voilà, c'est ça.
Il faut qu'on favorise...
Oui,
il
faut un réseau, d'abord.
Il existe.
Et ça serait invisible sur les finances. Ça serait invisible puisque ce serait de l'achat en euros de florins.
Oh, mais on n'achète rien parce que l'exemple des cartes jeunes, Manu, c'est un peu ça. Déjà, c'est un peu local parce que c'est nous qui émettons un certain argent qui va aux assos et les assos nous le renvoient pour qu'on les rembourse. Donc c'est déjà ça.
Ça existe la monnaie locale, mais effectivement.
Au niveau de la carte jeune,
c'est ça. Dans un circuit fermé.
Pas dans d'autres prestataires. Au niveau de la carte jeune, c'est ça en fait. Vous voyez ?
Ça peut être faisable, mais dans un circuit défini, un circuit fermé, si je puis dire. C'est-à-dire, à l'intérieur de Vendeuvre, on a des partenaires, des commerces, des choses comme ça. On met en place une monnaie locale et on l'utilise entre les partenaires qui sont parties prenantes, en fait.
Voilà, exactement. Mais ça peut être que marginal.
Mais ça peut se faire, hein, dans ce cadre-là.
Et moi, je pense que c'est de l'ordre du projet, ça, Philippe.
Non,
mais à penser.
C'est de l'ordre du projet d'un élu ou de plusieurs élus.
C'est ça.
Et c'est à vous de travailler le projet et un jour, au bureau municipal, de nous présenter.
Tout dépend des dépenses que nous décidons. Mais effectivement, si c'est des dépenses qui peuvent se faire de cette manière-là, oui.
Ah oui, il faut le creuser.
Oui.
Si c'est votre projet, je ne sais pas, dans votre groupe, si c'est.
Un projet particulier, puisque ça peut dépendre de différentes délégations.
Je ne sais plus dans quelle ville le maire a décidé de se faire payer en monnaie locale.
Oh.
Ouais. Je ne sais plus laquelle.
Ça devrait être obligatoire.
Allez, on va prendre la décision ce soir.
On va prendre la décision ce soir.
Ouais, je vous dis tout de suite mes intérêts. Je veux bien les avoir encore.
Oui, je veux bien Philippe.
Et ça, c'est possible, ça, des indemnités en florins.
Si M. Liu dit que je l'ignorais, mais si vous dites, je veux bien vous
parler. C'est étonnant, ça.
Il faudrait voir comment ça marche, parce que...
Je suis d'accord.
Ah ben, c'est ça, je dis non, ne dis pas je suis d'accord, dis...
Creuse la question.
C'est un projet que je veux creuser.
Voilà, creuse la question.
Voilà.
C'est
la question.
C'est ce que je suis en train de dire.
Oui, non, Philippe, t'as tout à fait raison. Ouais. On encourage absolument le floral pour différentes raisons. Mais il faut quand même faire une petite note nous expliquant qu'est-ce qu'on va bien faire de notre indemnité quand même. Parce que c'est pas tout de recevoir des florins, il faut encore qu'on puisse les dépenser.
On va les dépenser dans ce qu'on veut, nourriture,
marché bio.
Il y a le marché. Oh, attends. Quel marchand bio prenne du florin? Il faut regarder ça de près.
Il y a
l'eau vive. Alors, c'est vrai que quand tu vas à l'eau vive, tu n'as pas pour longtemps dépensé ton indemnité.
Ah, ça passionne.
C'est ce que tu as prévu dire.
On pourrait par contre prendre le sujet par les maintenant des décisions du maire là.
Sur les tarifs.
Oui. Les tarifs, et que ça, les décisions.
Ouais, toutes les décisions là. On les avait déjà prises quand on avait fait le bureau ici, mais on peut les
reprendre. Oui, on avait commencé, oui. Ouais. Oui. Vous avez dû recevoir dans le conseil municipal Donc les décisions du maire.
Les pouvoirs de
l'État. On a commencé la discussion la dernière fois.
Il veut qu'on vienne dessus là.
Est-ce que vous les avez lus et est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre tout de suite, mais on peut essayer.
Pardon ?
On en avait plusieurs.
Non, mais la dernière version qu'on a eue dans les boîtes aux lettres ces jours derniers pour préparer le conseil municipal, dedans il y a les, il y a les délibérations, et la première délibération c'est tous les pouvoirs délégués au maire. On a parlé tout à l'heure du pouvoir de contracter un emprunt à hauteur du montant du BP, et il y a d'autres pouvoirs qu'on donne au maire. Donc c'est ça en fait qu'on avait commencé à discuter quand on avait fait la réunion post-conseil municipal qui n'a pas eu lieu, mais là on revient dessus pour le prochain conseil. Donc il y avait quelques petits chiffres, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait discuté de telle ou telle valeur à ajuster, donc c'est ce qui a été fait. Bon, après, il n'y a pas de gros enjeux.
Il faut savoir, je préférais que c'est marqué maire, mais derrière maire, il faut lire adjoint, plus précisément, entre autres, adjoint aux finances.
Oui, donc il y a pas...
que le maire, il ne sait même pas la plupart du temps que ça existe. Et je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent toutes les phrases qui sont mises dedans, etc.
C'est pas lui qui va contracter l'emprunt, c'est pas lui qui va se renseigner pour une trésorerie, c'est évidemment c'est les services qui vont gérer ça, mais on est obligé de délibérer pour en ce sens-là.
Oui, bah
En fait, c'est sous sa responsabilité, mais ça reste une facilité de fonctionnement.
Oui, c'est surtout ça.
Plus que de décision politique.
Oui.
Parce que si on devait faire un conseil à chaque fois, ce serait quand même très très lourd au niveau administratif.
Oui. Dani.
On en a parlé juste après l'élection.
Ouais.
J'ai vu qu'il pouvait être amené à renouveler seul les conventions avec les associations pour lesquelles on était conventionnés. Vous avez vu, on fait passer en bureau.
Non, c'est le montant, je crois, Dani. C'est 2000. C'est la limite à 2000. Mais ça passera en bureau. C'est juste qu'on, dans ce document-là, c'est noté que. Les souscriptions de la ville, quand on est dans une assos, le montant était fixé à 2000 euros. Il y a juste ça. Après, ça passe en. Ce n'est pas le maire qui, derrière, va adhérer à des assos, c'est juste un montant.
C'est généralement les associations nationales. Si on décide, par exemple, d'adhérer à l'association du commerce équitable, ça vient en cours d'année entre deux conseils municipaux avec le coût de 500 euros. Il n'y a pas besoin, disons, de faire une délibération au conseil municipal.
Mais ça s'est déjà passé, on a fait une délibération. Pour ça, je vais essayer.
Ça n'est pas peut-être les 2000, non ?
Non, c'était
les chats,
j'ai
aimé.
Non,
chats sont tous.
Non,
pas. Là, c'est trop cher,
ça. J'ai une autre question. Alors, est-ce que le maire peut, lui seul, par exemple, décider d'un achat auprès d'un particulier ?
D'un achat auprès d'un particulier ?
Un achat, par exemple, donc, j'imagine, il y a un projet de musée qui est prévu dans le programme, d'ailleurs, et il se trouve que.
Là, oui, parce que si demain, je sais pas, on veut acheter une armoire ou quelque chose comme ça, on peut l'acheter dans le budget courant de la collectivité. Je veux dire, le maire.
Auprès d'un particulier, on peut.
Oui, oui, on pourrait, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Sur le budget de la culture, voilà. Par exemple.
Par exemple.
Ah, Jean-Pierre.
Ça commence.
Bah, une armoire Lorraine, c'est normal. Pour un musée.
C'est-à-dire, je pensais, on demande aux habitants de payer un certain nombre de choses. Par exemple, moi je joue au jardin à la ville, tous les ans je paye une redevance. Donc on donne, le particulier donne de l'argent à la ville, mais la ville peut donner de l'argent au particulier s'il lui achète quelque chose.
Ah, on peut acheter quelque chose à un particulier.
Est-ce que la ville a le droit de prêter de l'argent ?
De prêter de l'argent à un particulier, vous voulez dire ?
Tu veux combien ?
Alors là, il faut mettre, effectivement, j'entends le mot, il faut mettre un crédit municipal en place, mais là, c'est un dispositif particulier, il faut créer une entité juridique et tout. Mais on pourrait le faire, hein. Ça s'appelle un crédit municipal.
Ah d'accord, donc ça n'existe pas.
Hein. Avant d'œuvre ? Non.
Si ça l'ancien, j'ai ma tante.
Ouais.
Si,
oui, oui. J'ai
ma tante, le crédit municipal.
D'accord, mais avant d'œuvre, ça n'existe pas.
Non.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas.
Oui, oui, je pense.
Ça
ne va pas tarder.
Ouais. Ça pourrait exister, ça pourrait même peut-être être utile.
Ça pourrait même être utile. Si on veut développer l'activité économique locale, je
pas parce qu'on n'a pas fait qu'il ne faut pas faire.
Oui, oui, oui.
C'est pour ça que M. le maire a souhaité renouveler au moins la moitié des élus, justement, pour qu'il y ait des nouvelles idées qui sortent. Néanmoins, ça demande d'être instruit, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de préparer l'homme, et après c'est une décision collective, en fait.
Est-ce qu'on peut poser une question en dehors du budget ?
Alors, peut-être vous libérer.
On va peut-être vous libérer.
Hein. Oui, oui, on va remercier. Ouais, ouais. On va
libérer.
Il y a un nom compliqué, un petit chouleau.
Ouais.
Il y avait juste quand même un point, je ne sais pas si Nicolas peut répondre ou pas, les indemnités des élus.
Ah oui.
Parce que donc, il y a eu des questions sur ce sujet-là, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'on peut, parce que là c'est marqué 300 000 euros finalement, est-ce que les indemnités des élus, ça pourrait peser 600 000 euros ?
Non, il y a une enveloppe maximum à respecter.
C'est encadré.
C'est en fonction du nombre d'adjoints maximum qu'il est possible de nommer dans la commune. Il y a une enveloppe à ne pas dépasser.
Donc là, on sait combien on va avoir, parce que personne n'osera poser la question.
Ah non, bah alors c'est géré au niveau du service ressources humaines, moi j'en ai aucune idée.
Ah, c'est des ressources humaines.
Ouais, ouais. Mais il y a une enveloppe à ne pas dépasser, on ne peut pas mettre autant qu'on veut.
Et, on sait qu'on va, ça va diminuer, c'est ça ?
Bah, c'est...
Les indemnités maires, adjoints, conseillers sont encadrées en fonction de la taille de la commune. Il y a des décrets qui fixent les montants. Après, au sein des montants, on fixe un coefficient, mais il faut que l'ensemble de ces rémunérations-là ne dépasse pas un certain plafond.